Allez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans Gironde Analyse, RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. Quand la technique voulait. Il y a des journées comme ça. T'entends rien?
Ah, j'entends rien.
Et voilà.
Et voilà, quand la technique vous lâche. C'est une journée, mon pauvre, aujourd'hui, où la technologie m'aura lâché de 8h ce matin jusqu'à 20h30 ce soir. C'est un truc de dingue. J'ai eu que des problèmes d'ordi, de trucs, que ça soit au boulot, à la salle de sport tout à l'heure ou ici maintenant.
Ah, d'accord.
C'est un truc totalement improbable. Je sais pas, aujourd'hui ça doit être.
Moi je pense que j'ai pas de son dans le casque parce que j'ai pas de son dans le casque.
C'est possible puisque le bouton est à zéro.
Voilà.
Tu as du son
dans
le casque.
J'entends ma voix. Mon ego est servi. Voilà.
Je crois que c'est une des intros les plus pétées de l'histoire de cette émission. Je crois que même au tout début.
Il y en a eu de belles.
Il y en a eu des bien.
Il y a eu des émissions présentées par Marc.
Il y a eu des trucs bien méchants. Je vais changer de
salut
de,
Marc
de platine
si
ou
nous
peut-être
entend.
Même changer de CD.
Là où il est.
Marc que l'on salue, il est là-haut avec Coluche. Non, on déconne, il va bien. Il va bien et on le retrouvera très bientôt à ce micro pour parler des exploits des Girondins de Bordeaux. Du coup, j'ai même plus de fond. Alors, il n'y a plus rien qui marche. Le truc marche plus.
Ah là là.
Ça promet. Ça va être long. Ça va être long, je sens, ce soir. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir dans cette émission? Nous allons parler évidemment de la. J'allais dire de la défaite. Du match nul.
Eh oui, 1-1. Annoncé par un chroniqueur de l'émission, je ne dirai pas qui.
Qui avait dit un partout?
Moi.
Bien joué, Roger. Bordeaux a donc concédé le match nul, un but partout. Sur la pelouse de l'AS Monaco, Bordeaux qui arrête cette spirale infernale de défaites et qui ramène un
et
point
de la... non-but à l'extérieur.
Et de non-but à l'extérieur et qui aurait pu même l'emporter sur un loupé des magistrales de Caramo.
Ah oui. Non mais c'est le
talent. Dommage. C'est dommage. Hein. Oui, évidemment, 3 points c'est mieux que 1, mais on va quand même s'en contenter par les temps qui courent. On va évidemment revenir sur ce match avec les petites stats qui vont bien, avec l'analyse. Est-ce que Bordeaux aurait pu ou aurait dû espérer mieux que ce match nul? On va y revenir dans quelques instants. On va également parler de l'actualité du jour. L'actualité du jour, c'est, vous l'avez bien sûr suivi. L'officialisation, la présentation à la presse, puisque l'officialisation c'était vendredi, la présentation à la presse de Paulo Sousa et de son staff, c'était cet après-midi au Hayan. On va évidemment y consacrer une grande partie de cette émission et nous aurons d'ici, je crois que c'est d'ici une heure, sur le coup de 21h30, Nicolas Le Gardien, journaliste à Sud-Ouest, avec qui on reviendra évidemment sur cette conférence de presse et la présentation de Paulo Sousa. Et puis je crois qu'on aura un petit peu ça va être très long. Avec moi ce soir pour parler de tout ça, il y a Adrien, vous venez de l'entendre. Salut Adrien.
Salut.
Comment
salut
ça va Adrien?
Bienvenue les loulous.
C'était bien l'école?
Oui, ça va très bien.
T'as pris ton... T'en es où là? C'est quoi?
Je suis en master 1 depuis 3 ans. Non, mais j'ai changé de master 1 entre temps.
Ça fait des bases solides, c'est
oui.
Bien.
Oui, non, mais j'ai changé de master 1 cette année. Mais ça
en
va.
En fait, tu peux faire 25 master 1 jusqu'à 45 ans de première année, quoi, si tu veux faire ta carrière là-dessus.
Oui, c'est ça.
Non, mais c'est bien.
C'est un
bien,
projet.
Il en faut. Non, c'est bien. Bravo, félicitations. Nous te souhaitons tout le succès possible dans cette entreprise. Notre deuxième participant autour de la table s'appelle aussi Adrien.
Oui, c'est vrai.
Et pour bien embrouiller tout le monde, je vais vous appeler juste par vos prénoms en fait ce soir. Ça va bien bien embrouiller tout le monde. Salut Adrien, que vous connaissez mieux sous le pseudonyme de Snackil. Salut à toi.
Voilà, ça sera mieux. Oui, salut à toi. J'ai eu du mal à trouver. À chaque fois, je me plante. Je tombe toujours dans la forêt de l'autre côté.
Faut dire que c'est tellement bien indiqué.
Le GPS t'amène. En fait, le GPS ne t'amène pas ici. Il t'amène juste ici, mais à côté de la chez le voisin en fait.
Oui, voilà.
Bah, c'est ça a dû leur faire bizarre de te voir débouler surtout.
Oui, je me marie avec un sac là, avec mon sac qui se pack, tu vois. Moi aussi, je suis lycéen du coup, comme Adrien. Voilà, j'ai un genre de cours.
Il leur a dit, vous avez pas vu un petit avec des lunettes et des cheveux frisés, un grand gros avec une barbe? Non, pas là. Là, pas de suite. Comment ça va, Snackil?
Mais ça va, journée riche en rebondissements, enfin,
ouais.
En émotions, on va dire, avec notre nouveau petit entraîneur, là, c'est sympa, là, j'ai suivi ça, j'ai vu la conférence de presse.
Alors ça, c'est parfait, parce que moi, j'ai pas pu l'avoir, vous êtes deux à l'avoir vu, j'allais pouvoir bien.
Mais qu'est-ce que tu fous, là, en fait?
Alors, qu'on soit clair, moi, j'ai pas vu le match samedi, j'ai pas vu la conférence de presse, et on va faire jusqu'à 10h.
Je sais même pas ce que c'est, Girondin. On m'a mis là, on m'a dit tiens, présent.
On m'a mis là, on m'a dit tiens, alors, appuie sur le bouton, ça s'allume en rouge et tu parles dedans. J'ai fuité, ça a l'air pas mal.
Non, moi, j'ai vu en mangeant le steak en même temps, tranquille, entre deux.
Vous allez voir le. Parce que, quand même, on va pas se mentir, dans cette émission, ça fait combien d'années qu'on est d'une totale indigence? Allez, on va dire, peut-être pas 10 ans quand même, mais c'est souvent, ça fait plusieurs saisons de suite, c'est qu'on voit les mêmes matchs. Donc ce qui est bien, c'est que des fois, sans voir le match, tu peux quand même faire l'émission, en fait, parce que c'est le match de la semaine dernière. Tu refais un petit peu les mêmes délires, et on arrive plutôt à s'en sortir des fois. On donne le change.
Je suis sûr que tu peux y arriver.
Oh oui, je vais revoir juste le dernier, rien qu'en voyant les buts déjà tout à l'heure.
Il sait qu'à un moment donné, il s'est passé centre de Pungé, quatrième poteau, ça ne reprend pas. Tu vois, c'est toujours pareil.
Exactement. En tout cas, merci Snakil d'être avec nous ce soir. Ça fait. C'était quand? C'était l'année dernière que la saison dernière.
L'année dernière, je suis venu deux fois, là, c'est la troisième. Voilà.
Et bien, jamais 203. Le. Pardon. Bon, messieurs, alors je vais retenter un petit jingle, mais à mon avis, je pense que la technique s'est foutue pour la journée. Je pense que c'est plié, jusqu'à minuit, on n'aura plus rien. Je vais quand même tenter débrief de Monaco-Bordeaux. C'était la 28e journée de Ligue 1. C'était samedi soir, 20h. On va revenir, musique qui fait peur, Ligue 1. Hop, musique qui fait peur. Qu'elle fait peur, cette musique. Ah oui, on va te filer, ouais.
On va te filer un casque. La musique qui fait peur.
Oh, c'est la musique. Les Girondins donc sont allés chercher le point du match nul sur la pelouse de Louis II, but de Radamel Falcao à la 48e minute et but de Jimmy Briand sur pénalty juste après l'heure de jeu à la 65e minute. Alors n'ayant pas lu le match, je suis quand même étonné qu'il y ait 7 cartons jaunes dans le match, c'est quand même énorme. 5 côté monégasque, 2 côté bordelais, alors en plus dans les arrêts de jeu, un pour Maja et un pour Tchouaméni. Ont été avertis Balotouré, Falcao, Martins, Emerson et Adrien Silva. Quelques petites stades très rapides. Alors c'est plutôt équilibré, pas tant en termes de tir et de tir cadré, puisque Monaco a tiré quasiment deux fois plus et cadré trois fois plus, mais en termes de possession, on n'a pas été, je trouve, de ce que me disent les stades, si dominé que ça. Une fois de plus, alors... Seulement 12 fautes de chaque côté, je trouve que c'est pas un match. Ça veut dire que c'était quand même un match. Alors, vous qui l'avez vu, vous allez me le dire, ça devait être quand même un match de porc. Parce que pour que Monaco n'ait fait que 12 fautes et que sur ces 12 fautes, il y a 5 cartons jaunes, c'est que ça devait être un match.
Non, il y a des procès. Il y a eu contestation. Voilà.
De ce qu'on m'a dit, la première mi-temps des deux côtés, grosso modo, est pas ouf. Et
la deuxième est pas ouf, mais un peu plus.
Et Costi, il est énorme. Oui. De ce qu'on m'a dit, qui veut sur ce Monaco-Bordeaux.
Costil qui sauve la baraque, qui empêche la défaite, tout simplement. Et puis à côté de ça, il y a des joueurs qui se sont, mis au diapason. Ils ont été assez, ils ont mis de l'agressivité surtout en deuxième mi-temps pour tenir le score, parce que Monaco attaquait pas mal, surtout à la fin. C'était vraiment une attaque défense. On a eu le petit coup de pouce de la VAR, quand même, hein, faut le dire, qui était avec nous cette fois-ci.
Alors, ceci dit, à juste titre, puisque le but de Monaco est hors-jeu, et pour moi le penalty, enfin j'ai revu les images, oui, s'il met pas la main Falcao, derrière il y a Ekalou et je sais plus
c'est ça,
le deuxième.
Mais on a tellement eu d'exemples à chaque fois, on siffle des penalties un peu pour rien, que là c'est le juste retour des choses. Donc
ça, c'est pour nous.
Voilà, un bon point pris, mais c'est vraiment, voilà, c'est tout à retenir, c'est Costil qui tient la baraque et les Girondins qui ont essayé vraiment de défendre comme ils pouvaient ce point du nul. Voilà.
Adrien. Ah, attends mon petit, je te rallume ton micro, voilà.
Mais voilà. Non, mais c'est bien résumé. C'est un match équilibré, mais Monaco a poussé, on a réussi à résister. On aurait pu être plus efficace, mais même la victoire, ça aurait été un peu au-delà de ce qu'on a effectué. Alors, ça veut dire le nul était mérité et Monaco a quand même poussé un peu.
Je vais vous poser une question, vu que j'ai vu que le résumé, pour être honnête, j'ai vu que le résumé de Canal hier soir. Si j'enlève l'action qui amène le but, si j'enlève l'énormissime loupé de Caramo, rassurez-moi. Après, peut-être vous allez me dire le contraire. Est-ce qu'on a vu du mieux par rapport à ce qu'on voyait jusqu'à maintenant? Et surtout, dites-moi s'il vous plaît par pitié que Bordeaux n'a pas fait que ça du match, c'est-à-dire rater une balle de but par Caramo et un centre touché de la main par Falcao. Est-ce que Bordeaux a proposé autre chose? Est-ce que Bordeaux a essayé de est-ce qu'on a vu un petit plus par rapport à Montpellier, par exemple, par au match de mardi. Ok, d'accord. Bon, je vais passer à autre chose. On va passer à la suite.
Bah,
Alors, Paulo Sousa.
Non, mais pendant 60 minutes, en fait, t'as pas vu grand-chose. Et puis après, t'as eu les entrées de Caramo et Kalou.
Je pense qu'au Monaco, ils se sont dit, ça va être facile et on va pas trop pousser. Et puis, ils sont un peu excités à la fin.
C'est voilà. Ça.
C'était terrestre à dire, mais ouais, c'est... C'était pas le Monaco contre Lyon, par exemple, avec qui ils ont fait une première mi-temps absolument incroyable dans le match contre Lyon.
Pourtant, l'équipe de Monaco.
Ah oui, c'était la type, hein. C'est l'équipe type. Hein.
C'est l'équipe type.
Moi, vraiment, quand j'ai vu l'équipe, je me suis dit, mais vraiment, sans être méchant, hein, on va se faire éclater. Mm. Voilà, pour moi, je voyais vraiment une bonne défaite. Ça m'a surpris d'ailleurs qu'on fait nul. Donc tant mieux, hein, mais comme quoi, des fois, dans le foot. Hein. Ouais. Je sais pas ce qui peut se passer.
Non, mais c'est surtout que vu l'engagement et l'intensité qu'on mettait
dans nos
10 derniers matchs, on va dire, c'est-à-dire quasiment.
On avait l'avantage sur les précédents matchs, même si on perdait, de ne pas prendre beaucoup de buts. Peu importe
c'est vrai qu'on
n'en encaissait
pas beaucoup. À part contre Strasbourg, on en a pris 3.
Oui.
Non, mais sinon, je veux dire,
le match qu'il fallait pas.
Paris, c'est 1-0, Nantes, c'est 1-0, Montpellier, c'est 2-1. Tu prends pas non plus des tannés, mais enfin, tu prends 0 points dans les deux.
En tendant l'adversaire. Le problème, c'est que des fois, tu t'endors aussi. Alors que là, une fois qu'on a pris le but, on a pressé un peu plus haut.
Je viens de réaliser que tu m'as fait une Rudy Garcia, là. Tu te rappelles pas l'année dernière, ou il y a 2 ans, quand il dit avec OM.
Oui.
Si on enlève la branlée, on en a pris 6, l'autre on en a pris 5, l'autre on en a pris 4 et l'autre on en a pris 6. Ben... Ouais, on n'a pas de mauvaise défense. Oui, d'accord.
Mais si on enlève tous les matchs, on ne gagne pas.
C'est toi, tu vois. Bah, bon, bah, si on enlève les matchs, on a perdu d'un but, on est pas mal.
C'est ça.
C'est un peu ça, oui.
Un peu quand même.
C'est à Patrick Ardo.
La Patrick Ardo. On va continuer à parler de ce match. Adrien, avec qui au téléphone? Tard. Salut, Tard.
Salut.
Comment ça va?
Salut.
J'ai failli gagner, hein, putain.
Et t'étais pas loin, toi, t'avais dit le match. Tu vois, comme quoi, l'occasion de Caramo, elle aurait pu te donner raison. T'avais dit le match, je le sens bien, je vois Bordeaux peut-être s'imposer là-bas, et c'est pas
passé
loin.
C'est moi qui avais raison, en disant qu'il y avait match nul.
Alors,
le talent, c'est tout.
Tard, ça va être très compliqué pour toi ce soir, parce que mes deux acolytes qui sont autour de la table, ils s'appellent tous les deux Adrien. Alors au moins,
Adrien.
Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'au moins, peu importe qui te parle, ça sera forcément un Adrien ou moi.
Oui,
mais
il pourra
bon.
Pas se tromper.
Tu pourras pas te tromper sur les prénoms. Alors, Tard, ce match à Monaco.
Bah écoute,
est-ce que t'es content?
Parler, là. Moi, personnellement, je trouve du mieux. Et bon, alors, c'est vrai que je vais être dur avec lui, mais c'est bizarre, il a une bonne note, Pungé.
Mmh. Oui.
J'attends dur avec lui.
Il a une bonne note.
Oui, 6 sur 10, je crois, ou 5 sur 10, un truc comme ça, pas moins. Hein.
Ouais. Après ça, il a pas fait de ses
vannes. Non, voilà, il était voilà. Moyen.
Et lui, Costil, il a eu 7 sur 10, ou 7-5, je crois. Et
oui, Costil, c'est mérité quand même.
Qui est Costil, oui, il n'y a pas de problème, non, je te parle de Pungé, moi.
Oui, vas-y.
Non, mais je m'acharne un peu sur lui, mais moi, comme je vous ai toujours dit, dès qu'on démarre avec lui, on démarre à 10, hein. Voilà, enfin, c'est dur ce que je dis. J'aime pas parler comme ça.
Non, mais après, c'est bien de dire ce qu'on pense aussi. C'est voilà, c'est.
Oui, mais c'est... ouais, mais je joue au ballon et j'aime pas parler comme ça.
Ah.
Et, mais le gros souci, ce garçon, où il te fait tout bon, une fois tous les 10 matchs, il te fait. Mais c'est pas ça, c'est pas suffisant pour Bordeaux. Enfin, il y a pas que lui. Attention, mais là, dès qu'on démarre avec lui, on démarre à 10.
Et souvent les gens ils ont du mal comme ça, c'est vrai, à critiquer parce que c'est sûrement une personne gentille, mais le problème c'est qu'on dit toujours c'est une personne gentille, mais ça, c'est pas parce qu'il est gentil qu'on n'a pas le droit de. Non, il n'a pas le niveau pour moi pour être un titulaire au Girondin de Bordeaux. Tout simplement.
Disons que quand il est au meilleur.
C'est très juste ce que tu dis. J'avais du mal à le dire, mais pour moi, voilà, c'est un bon remplaçant.
Oui, voilà. Exact, c'est ça.
Le problème, c'est que ça fait pas mal de saisons que tout le monde le voit, sauf les principaux, ceux qui sont censés le voir et qui ont le pouvoir de faire quelque chose, c'est-à-dire le staff et les dirigeants.
En fait,
quand tu vois que Trio l'a prolongé, ça veut tout dire.
Oui. Non, mais.
Ils voulaient pas se faire chier à chercher.
Et qu'on me fasse pas croire.
On en avait un bon, c'était Mariano, ils l'ont vendu.
Oui, il était pas à gauche,
il voulait partir.
Oui, mais d'accord. Non, mais attends, déjà, tu équilibres. Un à droite, l'équivalence des deux côtés, à droite et à gauche. T'as, moi, je vais être gentil. Je vais pas trop de méchant. Tu prends un Palencia, mais à gauche.
Ah, mais
oui, Palencia, oui, ça va.
Tu vois, ça serait pas mal déjà.
Oui.
C'est ce que je veux dire. Mais on avait Mariano, si tu as l'équivalence à droite ou à gauche. peu importe, je joue pas à gauche, Mariano.
Non, non.
Ou tu peux dans ta nouvelle politique de faire éclore des jeunes pousses, laisser plus de temps au petit Driss Richard qu'on avait vu contre Toulouse, qui moi m'avait pas fait une mauvaise impression pour une première, pour un premier match de Ligue 1 dans un grand stade avec plein de gens. Bah, le petit gamin, il avait plutôt bien tenu.
Oui,
est-ce qu'on pourrait pas aussi donner sa chance à ce garçon, lui dire bah écoute, la saison elle est finie, il y a quasiment plus rien à jouer. Allez, on t'aligne les 10 prochains, quand on est quoi, la 28e journée, il reste 10 matchs. On t'aligne 10 matchs. T'as 10 matchs pour montrer que l'année prochaine tu veux être là et tu veux être titulaire.
Non,
allez,
mais
gamin. Ça te coûterait quoi de le faire?
Et puis c'est pas bon, tu changes. Surtout c'est sur le fait que t'avais une rotation à 3 avec Sabali, Palencia et Pungé, et maintenant on a l'impression que t'as une rotation qu'entre Palencia et Sabali. Et après, bon, ça a été dit encore dans la conférence de presse de Bédoué, on va dire que je radote, mais Bédoué il a dit c'est dommage, ça aurait pu être renforcé cet hiver. Il regrettait le fait qu'il n'y ait pas eu de recrutement.
Qui était l'entraîneur ou les entraîneurs de cet hiver?
Non, mais parce que
bon,
eux, ils avaient sûrement mis en besoin latéral gauche et c'est 10. Et latéral gauche aussi.
Adrien.
Oui.
Je veux simplement dire.
Tu vois, là, t'as bon. Hein.
je veux simplement dire un truc, c'est que, comme tu l'appelles, Ricardo, il avait dit, juste avant le mercato, il me manque un milieu offensif.
Il cherchait un milieu offensif et un latéral gauche.
Donc, s'ils l'ont pas fait, mais moi, je vais te dire, là, j'ai lu un peu tout, là, depuis quelque temps. En fait, les Américains. Ils disaient que c'était les mecs qui avaient pris M6. M6, ils disaient que c'était pas encore tout à fait les Américains. En gros, tu vois, moi je pense que c'est stratégique entre eux pour pas avoir à sortir dans la monnaie en milieu de saison. Moi je le vois comme ça.
Oui, non, mais je pense que cet hiver, ça a été un peu sacrifié.
Plus globalement.
Oui, mais ce que je dis. Et là, par contre, Souza, quand je l'ai écouté cet après-midi au truc, lui, il va regarder tous ces joueurs qu'on a, là, toutes les brèles qu'on a, il va voir qui on garde et qui on garde
plus,
pas.
Plus globalement, pour revenir, et puis après, on passera à autre chose, on va pas faire 20 minutes sur Maxime Pungé, mais si la Ligue ne se trompe pas, j'ai les stats sous les yeux, il joue 35 ballons, Maxime Pungé, il en perd que 5.
Non, mais je
c'est,
dis, là,
c'est
il
pas...
a...
Ouais, c'est... Alors après, j'ai pas vu le match, moi je me fie juste à des chiffres, donc ça veut peut-être rien dire, mais... Bon, il est un de ceux qui a perdu le moins de ballons dans tout le match, voire celui qui en a le perdu le moins. Non, avec Caramo et Kalou.
Mais je te dis, moi la note m'a beaucoup. J'ai regardé le match, ça m'a surpris. Tu vois. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il perd un ballon parce que ça fait but. Tu vois. Bon, déjà, j'ai évité, il attaque lui. Rien. Après, tu vois, tu retiens que ça en fait. Eux, en termes de ballon, ils vont te dire qu'il a récupéré tant, il en a perdu tant. Et moi, je regrette. C'est pas que des stats non plus, comme dit Dugarry, footballeur. Enfin, je veux dire, je sais pas. Palencia, par exemple, je pourrais jamais te dire qu'il est mauvais.
Oui, mais c'est parce qu'il se bat.
Hein?
C'est parce qu'il se bat.
Il a au moins le mérite de ne pas le lâcher.
Il y a des matchs où, techniquement, il n'est pas à fond. Il a le syndrome de Préville.
C'est le moins mauvais des mauvais, en fait.
Il se bat et en fait, il ne fait pas de mauvais match. Palencia, vu que quand il fait un mauvais match, comme il se bat, on va se dire bon, mais au moins, il s'est battu.
Mais oui, mais c'est.
Comme de Préville.
C'est au moins. Oui, mais je suis désolé. C'est au moins le minimum.
Oui, c'est le minimum.
C'est-à-dire que c'est le minimum que tu dis. Ils ont le droit d'être dans un mauvais jour, techniquement, de rater. Mais au moins, si tu vois que t'es moins bien sur ce plan-là, compense. Et le seul truc avec lequel tu peux compenser, malheureusement, quand t'es moins bien, c'est c'est la hargne, c'est l'envie, c'est mettre.
Comme de Préville qui a mis ça, cette hargne, sur quelques matchs. Voilà. Pourtant, je suis pas un grand défenseur de Préville, mais des fois, il se bouge.
Chose que je ne vois pas chez messieurs Caramo, Camano.
Mais c'est pas pareil.
Voilà, d'ailleurs, qui me.
D'ailleurs, de Préville qui a fait un sacré match. Hein, Caramo avait pas bégayé avant,
c'est lui qui
fait une super
demande. Il a fait une passe incroyable à la Dani Alves, quoi.
Non, mais il doit avoir un problème. Il va pas comprendre. Il sort de la semaine. Il dit je frappe. Il y a Basic, il est sur la trajectoire. Ça fait passe des. Je donne un caviar.
Je suis désolé, les mecs, mais je revois là sur le résumé le but de Falcao. Mais comment Pablo? Falcao,
après, c'est
un
bien
très
joué
grand buteur.
Aussi,
hein. C'était son 100e match. C'était son 69e but, je crois, en 100 matchs. Enfin, mais comment il se fait bouffer, Pablo? Mais il saute même pas, il y va même pas. Il saute, il le pousse.
C'est un reculon, après.
Quand même,
mais s'il saute, il y a corner, il n'y a jamais but.
Mais attrape-le, bien sûr. Je sais pas, moi, c'est Falcao.
Le problème, c'est que.
Il fait 1m75, Falcao, il est tout petit.
C'est plus petit. Le Pablo de la début de saison. Hein.
Ouais, mais ça me...
Depuis qu'il est revenu de blessure, d'ailleurs, on a perdu à Strasbourg.
Les deux buts que tu prends contre Montpellier, ça filme. Strasbourg. Le but que tu prends à Nantes, ça filme. Là, ça filme. Je trouve que ça filme beaucoup, quand même. Voilà.
Moi, je pense que le sélectionneur du Brésil, il va plus le convoquer.
Mais il n'a pas été, il a pas été
oui,
pris.
Il était blessé, en fait, au moment.
Oui, voilà, il s'est blessé au mauvais moment. Voilà. Mais, ouais, mais d'accord, ouais. Tu sais, Hilton, il a 35 ans ou 36 ans ou...
Non, il a 41.
Ouais, tu vois,
il a 41 ans. Ouais,
et il veut prolonger.
Non, mais oui, justement. Ben, tu vois comment il compense, c'est le placement.
Après, il joue dans un autre système.
Ça, c'est sûr, le placement, ce que faisait très bien Laurent Blanc en fin de carrière. Laurent Blanc, il courait quasiment pas en fin de carrière.
Mais c'est quand t'as une bonne intelligence de jeu, tu peux compenser avec des courses qui sont inutiles des fois.
Deschamps le faisait, enfin, c'est ça, c'est que l'intelligence de jeu.
Oui, donc Laurent Blanc, il a joué numéro 10, il a démarré en 10.
Oui, Laurent Blanc, il a fait toute la colonne.
Oui, mais il a joué un véritable 10, tu vois, comment à l'ancienne, tu vois, comme Platini. Et il avait toute cette technique, et en reculant en libéro, tu vois, il voyait encore mieux le jeu. Mmh. Et plus sa technique qu'il avait, je te dis pas, quoi, c'est le top. Ce que je veux dire, c'est que, sauf le but qu'on prend, Falcao, s'il saute simplement, comment tu l'appelles, Pablo, il y a corner.
Oui, moi c'est ça qui m'a un petit peu. Enfin bon, on va revenir sur les deux faits de jeu, on va dire de ce match-là, qui sont le penalty sifflé pour Bordeaux et le but refusé pour Monaco. Bon, je crois qu'il n'y a pas.
Écoute, moi but... je te dis un truc.
Vinicius il est hors jeu.
Je vais résumer un peu.
Et
parce
oui,
que
la main,
le VAR jusqu'à maintenant il nous a plombé. Pour une fois que c'est pour nous.
Oui.
Mais de toute façon, tu sais quoi, je suis objectif. S'il ne fait pas la main, comment tu appelles Falcao derrière, il y a. Ah purée, qui c'est qui. C'est, je crois que c'est.
Il y a Kalou de sûr derrière.
Calou.
Et peut-être.
C'est Kalou qui est prêt à prendre
peut-être
le
Camano.
Ou Camano, je ne sais plus. Ou Kalou.
Mais il y a Kalou, c'est sûr.
Mais celui qui proche à prendre le ballon, je crois que c'est Kalou.
Oui, oui.
S'il met pas, en fait, s'il ne le prend pas du bras, c'est Kalou qui marque. Hein.
On est d'accord.
Non, mais il y a main. Ou la main.
Oui. On est d'accord. Donc,
je veux dire, il dévie le ballon.
Anéantissement d'une occasion de but. On ne sait pas s'il marque, mais il aurait eu la
porte. Si la main de Kimpembe a été sifflée, celle-là est largement.
Ah non, mais alors à l'inverse, on ne va pas refaire le débat, mais à l'inverse, je trouve que la main de Kimpembe, c'est un scandale absolu. Bon, ouais. Bref, ça, c'est pas. Voilà, on ne va pas refaire le débat sur le Paris Saint-Germain. Non, mais. Pardon. Dans ce match-là, il n'y a rien d'autre qui vous a. Il n'y a rien d'autre qui vous a interpellé, je sais pas.
Si, c'est en carré.
Bah, on va parler de des joueurs. Ouais, alors, on va parler du milieu, on a parlé de la défense. Mais on va parler des joueurs offensifs et du milieu de terrain. Je regarde le milieu de terrain. On avait qui? On avait Sankaré, de Tchouaméni,
Otavio.
Et Otavio.
Otavio.
Sankaré pour son. C'était son retour, là, Sankaré.
Ah, oui. Il n'y a rien qui a changé.
Retour après blessure.
Écoutez, moi je vais vous dire une chose. c'est, pour moi, ce mec-là, c'est un fantôme. C'est. Comment dire, c'est une énigme en fait, ce mec. Il disparaît, il revient, il est là, il est pas. Il est fin. C'est vraiment affligeant. Bordeaux ne mérite pas ça, merde.
Le problème d'un Sankaré en pleine forme, c'est qu'il peut t'apporter un véritable plus.
C'est ça. Moi, j'ai tenu un truc. Puisqu'ils ont pris Adli cet hiver et l'autre là. Et tu l'as fait jouer.
Bazic. Oui, j'étais étonné de ne pas voir Bazic.
Pourquoi il a pas joué Bazic?
Les gars, je vous suggère un truc. Pourquoi on ne pourrait pas jouer avec Adli à droite? Et
Adli me semble un peu court quand même.
Sattar, on en a parlé ensemble la semaine dernière. Moi, comme je disais, et puis Adrien le souligne aussi, c'est la totale incohérence. Et pourtant, bon, on va voir si Paulo Sousa va changer tout ça.
Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, tu joues avec Otavio en récupérateur, ce qu'on appelle défensif. Mm-hmm. L'autre, Tchouaméni.
Tchouaméni.
Tu vois. Et éventuellement, puisque où tu fais jouer, comment il s'appelle, lui, il a Sankaré, là, mais en défensif. Mmh. Et tu me mets plus haut, un cran plus haut, comment tu appelles, Bazic. Et Adli à droite.
Oui,
on reviendrait un peu à la 4-4-2 quand il y avait Miku à droite et Bernardi à gauche. En créateur, je parle.
Je vois ce que tu veux dire.
Ah mais une fois de plus, alors on pourra pas.
Adli, ça me semble un peu court. C'est-à-dire, en ce moment.
Mais dans cette configuration, tu vas voir, lui, Sousa, tu vas voir qu'il va aller, écoute-moi, t'as des mecs, mais je vais revenir à Messi, il a commencé à 17 ans, à Barcelone.
Oui, oui, mais Messi, il a commencé à 17 ans, mais, ouais, mais t'es pas dans la même... Voilà. Déjà, il est en Espagne.
Comparons ce qui est comparable.
Oui, je sais. Non, mais attends. Non, mais je veux dire, tout le monde me dit qu'Amano, il vaut 15 millions, 20 millions. Sur quoi tu te bases?
Tu te bases sur les 6 mois qu'il fait à Bastia et les 3 mois qu'il fait à Bordeaux.
Voilà. Arrête. 3 mois.
Alors, 4 mois de janvier à mai l'année dernière. Excusez-moi, pardon.
Non, mais il a aussi fait début de saison aussi, qui fait qu'il a augmenté le prix de Cabano.
Ah, quand même, c'est le style de joueur qu'il va falloir vendre 12 millions à West Ham.
Oui, mais vite, vite avant qu'il en vole plus que 3, quoi. Parce que là, c'est ce qui est en train de se passer.
C'est bizarre quand même, ces joueurs qui...
Non, mais Camano, lui, alors, par contre, je pense que c'est dans la tête.
Adrien. Bon, alors, manque de peau, ce soir, il n'y a que lui comme témoin. Mais moi, j'ai une théorie sur François Camano depuis des mois. Alors, on me dit, oui, tu l'aimes pas, c'est systématique, tu fais que le bâcher.
Ce qui est pas faux.
Tu l'as dans le nez. Peut-être. Mais moi, j'ai une théorie toute bête à propos de François Camano, qui est que ce que les gens ont cru voir de François Camano comme son niveau normal, bah pour moi, c'était le niveau d'un mec en total surchauffe. Et que son niveau normal à François Camano, c'est ce qu'on voit depuis ce qu'on a vu un peu l'année dernière et ce qu'on voit cette année. Voilà. Moi, je vois le truc à l'envers.
Après, on n'a pas tous les liens, quoi. C'est-à-dire, est-ce que dans cette période où il a bien marché, peut-être que psychologiquement, peut-être que autour de lui, ça allait bien, peut-être qu'il y avait
L'histoire du transfert à Monaco, on est d'accord que je pense que ça n'a pas dû aider.
Oui, c'est sûr. Mais son niveau, il est entre les deux. On ne peut pas dire, il est soit. Son vrai niveau, c'est qu'il est très nul.
Après, t'as peut-être quand il a comme ça un moment difficile où il y a, par exemple, son transfert avorté, tout ça, et peut-être que le mec n'a pas le mental, la force pour, du coup, aller au-delà de ça. Puiser dans son mental, peut-être qu'il y a des joueurs comme ça, ils sont bons, mais comme ils n'ont pas forcément de mental, je pense à, ils plongent, à un moment donné, ils plongent, quoi. C'est ça, c'est psychologique.
Non, mais c'est vrai, et puis, de toute façon, sur les trois de devant, notre trio qu'on avait, Kalou, Caramo et lui, à partir de janvier, t'as le trou.
Et puis après, il n'y a pas beaucoup de surprises pour l'adversaire, c'est un peu les mêmes profils, toujours les mêmes courses. On n'est pas assez... je pense que nos adversaires savaient comment nous bloquer.
Trop stéréotypé.
Après, je ne suis pas sûr qu'Amano il soit aidé sur le côté gauche.
Alors, il n'est pas aidé, mais c'est beaucoup trop stéréotypé. Non, mais t'as raison. Ouais. Ce qu'on fait...
Tout le temps.
Alors, il faut prendre conscience d'une chose, les enfants, c'est que potentiellement, ces propos qu'on a, on les tient peut-être pour la dernière fois, puisque... À part changer. Bon, je pense pas qu'en une semaine il y ait un.
Non, mais. C'est le type de joueur qui peut retrouver de la confiance ou Paulo Sousa.
Alors.
Vu que là, c'est dans la tête, c'est pas. On sait qui. Vu que le crochet lucarne, on sait qu'il a quelque part.
Paulo Sousa pouvait faire marquer de Préville.
C'est ça le truc, c'est que. On sait qu'ils l'ont fait plusieurs fois, Kalou, Caramo, Camano. On le sait, techniquement, ils savent faire peut-être que ça, mais ils le font très bien. Repiquer au centre, crochet, frappe
en volée. Il y en a, ils ont fait leur carrière
lunettes
sur
opposées.
Ça.
Non mais il y en a. Oui, non mais t'as complètement raison. Amara Simba, il a fait toute sa carrière
sur des
bicyclettes.
Il a dribblé au Carlos.
Bernard Mendy, il a fait sa carrière sur avoir déboulé, battu Roberto Carlos à la course. Enfin, il y en a qui font toute leur carrière sur ça. Bon, je veux dire pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, mettons-les en position de le faire. Et ben on se dit, ben ok, leur point fort c'est crochet, frappe en roulé, ben alors allons-y, ils vont en tenter 5 par match, ils vont en rater 4, ils vont en mettre une, ben c'est pas grave, mais au moins ça...
Vous avez vu la... D'ailleurs, je vais vous dire un truc là, il a très bien résumé la situation, Arnaud Le Caplain.
Baptiste Le Caplain.
Et il dit merci aux agents.
Arnaud Le Caplain, c'est la fusion entre Arnaud de sa mère et...
C'est le fils caché d'Arnaud de sa mère et Baptiste Le Caplain.
D'ailleurs, si Arnaud de sa mère nous écoute, joyeux anniversaire.
Et oui. Là, c'est par foutre.
C'est un
poisson. Non, tu as compris ce que je veux
dire. Ouais, vas-y.
Ouais, c'est vrai, t'as ta mère qui est pour Bordeaux et l'autre, c'est Le Caplain. C'est Le Caplain.
Exactement.
Il a dit ça, il a dit sur Camano, il a dit merci à ses agents, ils nous ont cramé le mec.
Mais c'est ça.
C'est tout, ils nous ont fusé les mecs, mais bravo, parce que c'est tout à fait juste. Parce que ils ont dit, ils le voyaient tous gros comme une maison à Monaco et tout, ça s'est pas fait. Il n'a pas joué à Nice, on aurait pu gagner peut-être ce jour-là. Enfin bref, ils nous l'ont cramé, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et puis il sera sur les bras en plus. C'est tout.
Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, Adrien. Vendons-le vite au mois de juin, tant qu'il vaut encore 10 ou 12 millions, avant d'attendre. Alors, sauf... Et on a déjà vu ça, des joueurs renaître totalement sous la houlette d'un nouvel entraîneur.
Je pense vraiment que c'est ce qui peut arriver. Mais...
Voilà.
Vous savez, je vous avais dit ça, je crois, c'est vendredi quand c'était parlé.
Exactement.
Je t'avais dit, il sera à lui 2. Tu vois, il était à lui 2.
Oui, il était là.
Ils n'ont pas fait le même match.
Il était bon. L'ami Paolo. Avec, d'ailleurs, il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait le président Longue Épée.
Non, mais je veux dire, comme par hasard, nos joueurs, c'est les mêmes chèvres qu'on a. Ils n'ont pas fait le même match comme on peut
faire. Ouais, tu t'essaies de te montrer toujours un petit peu, quoi.
Oui, mais c'est ce que je t'avais dit, rappelle-toi. Le problème, c'est que là, par contre, il est très clair dans son truc, là, aujourd'hui, Souza. Paulo Souza, il a dit, je vais tous les essayer, et à la fin de la saison, je dis, je vais voir qui je garde.
On n'est pas sorti de l'auberge, on a 40 types sous contrat, donc qui te les essayent tous.
Les mecs, il avait joué, là. Et puis, il a dit un truc qu'on parle tout à l'heure. C'est, il dit, on manque de créateurs dans la zone offensive, c'est milieu de terrain, quoi, en fait.
Ah, mais ça, oui, complètement. C'est notre problème depuis. Oui,
c'est depuis un moment qu'on n'a pas de créateur. Hein.
C'est notre problème depuis le début de saison, voire depuis même. L'année dernière, t'arrivais à t'en sortir parce que t'avais une triplette. Kamano, Malcolm, Laborde.
En début de saison, pareil, t'arrivais à t'en sortir, vu qu'il y a Kamano qui était
mais
en
feu. Là où tu as raison, c'est vrai, c'est que, par exemple, un gars comme Laborde, quand il était à Bordeaux, il faisait un peu toute proportion gardée, il faisait comme Benzema et redescendait beaucoup.
Oui.
Il est remonté, tu considères que...
Mais au détriment, au détriment de son efficacité
fait,
offensive.
De son efficacité en tant que neuf. Tu vois, il faisait, comment dirais-je, le piston. Alors que logiquement, ces mecs, les neufs, les finisseurs, ils doivent attendre dans les ballons.
Bah, ce qu'il fait à Montpellier, ça lui réussit plutôt bien, puisqu'il réussit beaucoup plus à Montpellier qu'à Bordeaux.
L'autre, là, qu'avec lui.
Delors.
Delors, merci. Mais lui aussi, un coup, c'est l'un qui joue pour l'autre, un coup, c'est pour l'autre qui joue pour... Tu vois,
ouais, d'accord.
Il compensait les deux. Ben, je crois qu'ils ont planté deux buts, et un coup c'est la Borde qui donne là, dimanche, et un coup c'est l'autre.
Nous, c'est à Bordeaux, on a l'impression que nous neufs, en fait, on leur demande pas de marquer, j'ai l'impression. On disait toujours à Bordeaux, ah oui, alors le neuf de pivot, le neuf machin. Non, mais dans les autres équipes, t'as un neuf, t'as un neuf qui plante. Pourquoi à Bordeaux, on revient pas à l'ancienne avec un numéro neuf qui est là pour planter des buts, pour être un renard de surface, et basta.
Depuis qu'Avenagui,
parce que voilà, on nous explique, parce que maintenant à Bordeaux, tu remarqueras tous les supporters souvent, mais bon, après, chacun son avis. Mais on nous explique toujours, et oui, mais alors, vous comprenez, alors moi je connais le foot, tu vois, il faut l'utiliser en pivot, comme ça il peut libérer les espaces. Mais arrête, un neuf, il plante, c'est comme ça le foot. Non, il faut arrêter,
c'est
quoi.
Clair. C'est enfin moi ça me dépasse. Mais... T'as voilà, dans l'histoire du foot, t'avais ta doublette devant, t'avais le 9, le 11.
Mais voilà.
Et puis t'avais deux gars. Olivier Tom, Ben Baker, mon gars, c'est la base.
C'est parce que je sais pas moi, il y a Guardiola qui a fait un truc avec Messi sur le côté, que ça y est, maintenant il faut copier. Enfin, tu vois, on a tendance peut-être à des fois à trop calquer sur d'autres modèles et on s'y perd en tout ça.
Bah, après, on voit aussi que nos neufs, quand ils partent de chez nous, ils réussissent.
Donc ça confirme ce que dit Adrien. Moi, il y a un truc qui me terrifie, c'est que du moment où Diabaté se barre des Girondins, on prend Ouaro. Ouaro, c'est quand même pas un mauvais joueur. Il a prouvé, Ouaro, qu'il était bon. On le prend 4 mois en totale méforme.
Je me suis dit, on va le garder
un an de plus. On va lui faire une vraie prépa au mois de juillet. Et puis, comme ça, en plus, il vient 4 mois, il met 4 buts. Ce qui est, en n'ayant aucune prépa, ce qui est quand même de Chine, c'est quand même pas dégueu. Je me dis, on va le garder tout l'été. Et puis, on va le garder un an de plus pour qu'il y aille. Eh ben non. On le renvoie. Ok, Modeste, pareil, on le dégage. L'autre, il devient meilleur buteur 3 fois de suite du championnat. Non, mais attends, c'est un truc de fou. Du championnat allemand, Telline, Adrien, je suis désolé. Là, ça pour le coup, ça.
Au Bayer Leverkusen. Hein. Et si ça a marché en plus.
Sérieux, t'es sûr de ça là ?
Je sais même plus qui
t'a dit. Il est prêté par Anderlecht au Bayer. Mais là où il a été prêté l'an dernier en Belgique, il a marqué. C'est pour ça.
Non, mais voilà, le pauvre, paix à son âme. Mais ça là, c'était un peu le même débat. On l'a laissé 10 matchs, on lui a dit bon, t'es gentil, t'as mis un pélon.
On les a pas laissés en fait.
Ouais, non, mais voilà, on les a pas laissés s'installer.
Peut-être que quand ils jouaient, on leur demandait pas forcément, on leur disait vas-y, redescends, machin, ça là, tu vas pivoter. Ouais, t'es le mec un peu costaud, allez, vas-y. On leur dit.
Si tu les laisses faire ce qu'ils savent faire, que ça soit Ouaro à Berne, Modeste en Allemagne ou Salah à Nantes, c'est-à-dire devant à marquer des buts, eh ben ils
Le vrai gâchis, c'est
Laborde aussi.
C'est Laborde.
Laborde, ouais, c'est sûr.
Pourtant, moi j'étais. Pourquoi?
Parce que Laborde, le problème, et la plupart des supporters, c'était comme ça. On disait, c'est insuffisant pour être titulaire. C'est peut-être insuffisant pour être titulaire.
Par contre, c'est insuffisant.
Remarque, brillant, il marque. Hein.
On l'a dit, tout ça, je pense que même moi, je l'ai dit. Le problème à Bordeaux, depuis quelques années, comme on n'a pas de véritable créateur militaire offensif, ce que j'appelle moi, de véritable 10, enfin, l'ancienne, comme on joue sur le excentré, tu vois. Ça fait que les mecs comme Laborde, ils se ruent carrément, pratiquement tout le temps, à l'entrée de la surface. Pour faire des appels en profondeur, tu vois. Tu vois. Et, comment te dire, Ça, ça fait des années qu'on n'a pas ces créateurs au milieu de terrain, ça vous êtes d'accord avec moi?
Ah bah ça fait...
Donc, ce qu'on a, les 10, on les transforme en 9,5, en, tu vois je veux dire
oui.
Nos avancantes, on les transforme en 9,5 en milieu de terrain, tu vois.
Ces systèmes, alors il a raison Adrien, c'est des trucs qui arrivent, c'est des modes qui viennent comme ça. Maintenant il y a des milieux à 3 récupérateurs. Putain, déjà à l'époque, t'en avais 2 déjà, c'était quand t'avais ta charnière. Smertin Costa, Diarra, Fernando, on en a eu, hein.
Après, il y a des.
Pavon, enfin voilà, t'avais ta doublette déjà, tu disais 2 déjà, c'est. Mais non, t'en mets 3, putain, 3. Et sur les 3, t'en as pas un qui s'est distribué un ballon à tes joueurs offensifs.
Des fois, t'as l'équilibre de l'équipe qu'il faut trouver. Et on a vu cet été avec l'équipe de France où tu regardes le schéma de jeu, tu dis tiens. Je suis tacticien, vas-y ce que j'ai fait.
Oui,
okay.
mais en équipe de
mais
France, t'as des joueurs comme monsieur comme Pogba ou comme N'Golo Kanté qui savent donner des vrais bons ballons.
Oui, non, mais
à leurs joueurs offensifs et qui apportent un plus offensif.
Moi, c'est sur l'argument de l'équilibre de l'équipe, réussir à trouver ça et pas se baser que sur des schémas
alors,
préconçus parce que le schéma qu'avait mis Deschamps par exemple, personne n'aurait mis, et finalement c'est celui qui a été au bout.
Reviens à Bordeaux, s'il te plaît.
Mais laisse-moi, laisse-moi avoir un argument, ça
là, c'est moi qui fais.
T'es bien pressé, dis donc.
Allez.
Vous me gonflez pas, en fait.
Mais on essaye peut-être pas assez. Ça veut dire que c'est vrai que le 4-3-3, c'est quelque chose qui a à peu près fonctionné depuis 3 ans parce que nos ailiers étaient bons à ces moments-là. Et le problème de cette saison, c'est qu'on n'a pas eu de schéma pour compenser ça. Au moment où nous ailiers, ça allait plus. Qu'en début
dernière,
de saison,
à 14 défaites, ça a fonctionné.
Non, mais il est revenu.
J'espère que Paulo Sousa, il va nous mettre un 3-5-2, mais plus de 4-3-3. Il me met ce qu'il veut.
Mais s'il fait un 4-3-3 et qu'il gagne,
je m'en fous, mais qu'on voit autre chose.
Non, mais je crois que d'après ce que j'ai lu, c'est un 4-3-3, voire un 4-4-2.
Moi j'ai plus vu un 3-4-3 vu qu'il a
non,
fait la
4-3-3, 4 défenseurs, 3 milieu et 3 devant.
Moi.
Tu sais, après je sais pas s'il met en losange ou pas, et le 4-4-2, lui il favorise beaucoup le 4-4-2 quand il était à la Fiorentina. C'est-à-dire que, mais, par contre,
après, moi, il va peut-être s'adapter avec les joueurs qu'il a aussi.
Oui, voilà, tout à fait. Mais je pense que le 4-4-2 pourrait justement libérer un peu les. Comment dirais-je, comme tu as dit toi, si justement. Adrien, moi je mettrais 3 ou toi aussi c'est Seb.
C'est moi.
Je mettrais 3 mais récupérateurs défensifs.
Ouais, ça fait beaucoup.
Mais ça joue au ballon quand même, ils peuvent distiller de bons ballons.
Moi je veux bien, mais si t'as Busquets, Marquinhos.
Ouais, voilà,
oui, je te parle des nôtres, je connais tout cela que tu dis. Je parle des nôtres, de Bordeaux. Tu me mets 3 récupérateurs au sens propre du terme et tu me mets des offensifs. C'est-à-dire que ils font la jonction entre les défenseurs, les milieux récupérateurs et les défenseurs, et après ils font la jonction avec ce qu'on pourrait appeler les offensifs, les milieux offensifs. Et tu peux jouer avec une pointe, voire deux si tu veux. Ouais. Mais si tu as de la qualité, en milieu de terrain, je vois pas pourquoi on jouerait pas comme ça. Parce que tu as trois récupérateurs.
Oui, 3 récupérateurs, mais après, oui. Est-ce que notre équipe est équilibrée pour faire ça, vu que 3 récupérateurs, techniquement, on les a.
Maintenant, Seb.
Adrien. T'as réussi à te tromper, hein.
T'as 2 chances sur 3, là, t'as de pas
attendez,
te couper.
C'est pour ça que je te dis 4 défenseurs. Je sais très bien que c'est pas la succu chez nous. Moi j'ai 4 défenseurs, mais tu mets 3, putain, t'as 3 défensifs, alors. Ça te fait 7 joueurs à vocation défensive, ça va, hein.
Après, il y a un truc on va revenir sur Paulo Sousa dans quelques instants avec notre invité au téléphone qui sera Nicolas, le gardien journaliste à Sud-Ouest, mais moi il y a quand même un truc qui me je me dis, est-ce que le timing est peut-être pas trop tard, c'est-à-dire que le temps qu'il arrive. Là, il va passer la semaine. Il va passer la semaine à observer son équipe. Je ne pense pas qu'en une semaine, il ait le temps réellement de se faire une idée. Donc, ça va peut-être prendre 2 semaines, 3 semaines, un mois. Déjà, tu perds 4 matchs. Ça fait que derrière, il t'en reste plus que 6 des matchs.
Seb.
Ou 5.
Mais écoute, on prend rendez-vous. Encore une fois, tu verras le match qu'ils vont sortir face à Rennes, Bordeaux.
Je souhaite vraiment que verras, ça se passe comme ça, vraiment.
Non, parce que là tu as joué un peu au ballon quand même.
Oui, un peu. J'ai plus joué au ballon avec les mains, moi.
Non, je me la joue pas plus.
On the ball.
Quand il me mettait sur la touche, le manager.
Oui.
Quand je rentrais, je mettais les bouchées doubles pour
montrer
que le mec qui a joué à ma place, il était bidon par rapport à moi.
On est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, tard, j'aimerais bien vraiment que ces joueurs-là et cette mentalité, sauf qu'aujourd'hui malheureusement un joueur de foot il est remplaçant, il se dit bon laisse tomber, j'irai jouer ailleurs l'année prochaine, j'appelle mon agent et puis si je suis pas titulaire à Bordeaux je serai titulaire à Dijon quoi, tu vois.
Et t'as pas lu ce qu'il a dit Souza?
Non, franchement aujourd'hui là j'allais le découvrir en direct pour en parler.
Il a dit clairement qu'il les a trouvés plus agressifs dans le bon sens du terme à Monaco que lors des derniers trucs qu'il a vu, parce qu'il a fait...
Ah, c'est sûr, s'il a vu Montpellier, oui, il y a une différence.
Non, mais il a vu les vidéos, il aura fait, aujourd'hui, ce matin, il aura fait vidéo, et il les a entraînés aussi l'après-midi, après sa déclaration.
Oui, après la conférence de presse.
La conférence, voilà. Et bien, ils ont fait de la vidéo. Mais lui, il a dit, je les ai vus, je les ai trouvés plus agressifs, plus compact et plus volontaire.
J'espère, parce que t'imagines le mec qui arrive et ses premières impressions, alors qu'ils ont pensé, c'est merde, ils sont nuls.
Sont vraiment nazes. Alors, est-ce que c'est possible de résilier, s'il vous plaît?
Vous savez, tout ce que vous dites sur eux, vous avez raison.
Mais attends, déconne pas, le mec leur prend 2 millions et demi par an, il va...
Alors, tard, avant que... Parce qu'après, on a un invité téléphone qui arrive dans quelques minutes. Pour terminer, je sais pas, vendredi, si je t'avais posé la question... le fait que Paulo Sousa soit le plus gros salaire du club, il est mieux payé que les joueurs, c'est l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du club. Pour toi, ça te comment dire, tu trouves ça normal et ça te rassure un entraîneur, il doit être mieux payé que les joueurs.
Ça me dérange pas dans la mesure où je pense, je vous dis bien ce que je ressens. Je pense que lui, il va amener sa culture à lui et de la gagne. Et c'est pas des fous les mecs là, parce qu'ils ont fait un contrat sur 3 ans et demi à 2,5 millions par an. Tu vois un peu, il vaut mieux pas qu'il aille au clash.
J'allais te dire, faut pas se louper dans 8 mois, parce que sinon tu raques 3 ans à 250 000 par mois.
Moi je te dis, Paulo Sousa, s'il fait pas 4 ans, c'est qu'il va dans un autre club. Et que c'est l'autre club qui paye là.
Ah bon, alors à la limite, moi ça me dirait bien aussi. Si le mec il fait 2 ans, qu'il te fait retrouver l'Europe, que limite tu gagnes un trophée et qu'après c'est Dortmund qui vient le chercher.
S'il part à Dortmund, tu diras, pourquoi on garde pas, dommage.
Attends, en plus,
parce que tu peux pas lutter.
Tous ces entraîneurs, il a que des gros entraîneurs, Lippi, Oswald, j'en oublie là. Il a gagné 2 Ligues des Champions. Déjà, tous nos comiques là qui sont au AIA, ils vont fermer leur gueule, tu vois.
Ah, on est d'accord qu'il n'y en a pas un qui a son palmarès. Voilà,
parce que là, je pense qu'ils se foutent de la gueule de Bédoué, tous là, et Ricardo.
Ah, on est d'accord. Je crois que celui qui a le plus gros palmarès à Bordeaux, je crois que c'est Plasil. Alors, t'as qu'à voir. Peut-être Briand. Et encore, je sais pas.
Qu'est-ce qu'il a comme palmarès?
Briand, il a dû gagner des championnats avec Lyon, des Coupes de France, des Coupes de la Ligue avec Lyon, faire la Ligue des Champions, des demi-finales.
Quelle Ligue des Champions?
Briand avec Lyon, il a joué avec des champions.
Il a joué les quarts de finale.
Il a dû jouer au moins.
Les demi-finales.
Il a dû au moins jouer, un quart peut-être.
Quand il joue contre nous,
il a joué le championnat. Il a perdu contre Guingamp.
On va te remercier parce qu'on a un invité téléphone qui arrive dans quelques minutes juste derrière toi. On peut pas prendre deux personnes en même temps, donc c'est un peu compliqué. Peut-être un jour la technique nous le
permet. T'as qu'à venir en studio, tu fais beaucoup de route juste pour nous voir.
Vous avez vu que Zizou, il revient au Real?
Ouais. C'est dommage, nous on était persuadés qu'il pouvait revenir à Bordeaux.
Il revient aux affaires, Zizou, Bouteflika, bim, dehors, direct.
N'y voyez là aucun. Ouais, tu sais, comme quoi, tu sais, les mecs ils voient des complots partout. Dans le même jour.
Bonjour, je reviens, Bouteflika fait ok, moi je m'en vais.
On lui a dit non à Bordeaux, sûrement ça, on lui a dit non, t'es pas assez bien.
Et Bernard Tapie est en procès le même jour, comme par hasard.
Oh là, tout est lié.
Tout est lié, ils sont forts. Merci Tahar, on te retrouve. Très prochainement. Merci à toi et puis bonne soirée.
Et alors, s'il brille, faites la fête.
T'inquiète pas. T'inquiète pas pour ça, on devrait s'en sortir.
Allez, ciao les gars.
Salut Tahar, ciao, bonne soirée.
Ciao.
Dans quelques instants, donc je vous le disais, Nicolas le gardien journaliste sud-ouest sera avec nous au téléphone. On va passer à Paulo Sousa, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur sur Monaco. Sinon, voilà, on passe à la suite.
Non, rien
de spécial. Alors, on va aller sur Paulo Sousa, 22h, 21h15. Oh la vache, j'y vois rien, 21h15. Alors, conférence de presse, et là c'est bien messieurs, vous allez pouvoir, puisque vous l'avez suivi, je vais vous laisser la parole. J'ai les principales déclarations sous le nez si vous avez un trou de mémoire et que vous avez besoin d'un petit rappel. J'ai les déclarations également dans l'équipe du milieu de terrain Milan Badelj, international croate de 30 ans, que je connais absolument pas, non. 40 sélections, si. Voilà, Lazio. Ah si oui, exactement. Qui fait l'éloge de Paulo Sousa, qui dit c'est le meilleur coach que j'ai eu, il a apporté des idées nouvelles et tout le monde était prêt à le suivre. Donc c'est Emre Ten qui rapporte ça. Alors, la conférence cet après-midi, Paulo Sousa a été présenté par le président Longuepé. Est-ce que Joe Dagrossa était là?
Non.
Donc il y avait le président Longuepé, le traducteur ou la traductrice.
Et une nouvelle traductrice.
Ulrich Ramé était là non plus?
Non, il n'était pas là.
Je l'ai pas vu dans l'annonce.
Ouais. Avec son staff évidemment, on a vu la photo aussi qui a tourné après l'entraînement avec tout un staff. Je crois que on a rarement eu un staff aussi chargé. Je crois qu'ils sont 6 ou 7 si on compte. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7, 7 avec Sousa. Bon, pourquoi pas. Quelle impression il vous a fait? Déjà très classe, petit costard, cravate, machin, tout ça. Quelle impression il vous a fait? Est-ce que vous vous êtes senti rassuré par son discours, par ce qu'il dégage déjà, est-ce qu'il parle français?
Oui. Déjà. Oui. Après dans la conférence, bon, il a parlé en portugais, mais il a parlé quelques mots, il me semble, en français.
Et il le comprend même. Il le comprend vu qu'il a réagi à des questions directement sans
alors,
que la traduction.
Déjà, tiens, voilà, maintenant que j'y pense, déjà pour vous, première question, je regarde l'image, donc sur les 7 personnes qui composent notre staff, on doit avoir 3 Espagnols, 3 Portugais, si je dis pas de bêtises, quelque chose dans ce goût-là, et un Français. Je parle pas de considération nationale, de dire il y a des étrangers, pas un Français, je parle juste pour s'adresser à un groupe dont la majorité parle français. Alors vous me direz, oui, il y a Pablo, il parle brésilien, il parle portugais avec qui d'autre? Avec
Pablo, il y a
peut-être pas tant que ça.
Otavio brésilien.
Ouais, voilà, Otavio. Et ça doit faire que 2. Parce que je pense pas que Caramo, Calo, Calou et tout cela là, ils parlent encore moins. Cornelius, ils parlent. Non, mais déjà juste pour. Non mais déjà simplement juste pour l'échange.
Oui.
Allez expliquer à Cornelius. Ou à Calou,
non, mais
en portugais.
Qui peut parler espagnol,
bon, après il y a l'anglais.
Oui, il y a l'anglais.
Je pense que Paulo Sousa
parle
anglais.
Non, mais l'anglais, il sait parler anglais. Mais français, je pense que les consignes rudimentaires sur le placement et tout ça.
Il n'y a pas que Paulo Sousa, il y a tout le staff. Tu vois ce que je veux dire?
Le staff aussi, il doit savoir. Ça s'apprend.
Pour vous, ça.
Non. Et puis au pire, il y a Bédoué.
Au pire, s'il y a un peu d'adaptation, il y aura une adaptation jusqu'à cet été. Ils ont le temps de potasser un petit peu.
Non, mais il y a Bédoué au pire.
Ok, d'accord.
Non, mais c'est.
Moi, je préfère qu'il y ait, tu vois, plus d'Espagnols, qu'ils apportent leur culture. Parce que la culture espagnole footballistique, pas la même que la culture française, donc je vois ça d'un bon oeil, tu vois, déjà.
Ah, si, ils ont tous le. S'ils amènent ce qu'a Palencia, par exemple. Ce côté un petit peu je me laisse pas marcher dessus et puis
ce côté un peu coronès, ce côté voilà. Un petit peu le jeu par le jeu, tout par le jeu, oui.
Si mais ils ça, ont moi, une pluralité d'expérience, au moins les joueurs, ils auront eu le français, le uruguayen et le portugais espagnol, donc voilà, c'est au moins pour l'expérience des joueurs, les jeunes, ça va leur apporter le fait qu'il y ait eu beaucoup de coachs.
Sur ce que vous avez vu de la conférence de presse, ça a duré quoi? Une demi-heure ou quoi? 20 minutes, un quart d'heure, je sais pas, j'ai pas de.
30 minutes.
30 minutes, ouais, donc présentation, puis après je suppose qu'il y a eu des questions des journalistes. Sur ce que t'en as retenu, toi, Stakil, qu'est-ce que t'as.
Bah déjà, quand tu le vois, très classe. On sait que c'est important l'image d'un club.
Ouais, il est dans la mouvance des nouveaux coachs actuels, un peu quarantenaire.
Très classe, avec la voix assez forte, assez posée. Voilà, tu t'as envie de l'écouter. Donc, belle prestance. Après, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il parle beaucoup de jeu. À chaque fois qu'on lui a posé des questions, il parlait. Tu me dis si je me trompe pas de rire, mais il parlait beaucoup de voilà, j'ai des idées, je veux évoluer ça, on va évoluer ça, on va travailler à huis clos cette semaine parce qu'ils ont besoin de se concentrer. On a besoin vraiment de créer quelque chose. On dirait qu'il veut pas perdre de temps. Il est déjà là, il est au garde à vous, il est prêt à mettre de l'huile sur le feu, on va dire. Et après, bon, évidemment, il va pas dire
Ça, c'est un peu, on est toujours langue de bois. Il va pas arriver et dire, ouais, de toute façon, ici, je suis venu ici parce que j'ai pas forcément envie. Évidemment, il va toujours dire, vive les supporters, voilà, c'est l'âme du club.
Est-ce qu'il a fait le traditionnel couplet, Bordeaux, c'est une belle ville, et c'est une grande ville, et machin?
Il a fait le couplet des actionnaires.
Et la région, elle est belle.
Il a fait le couplet de, oui, alors, non, par contre, il me semble pas qu'il ait dit, c'est une belle, enfin.
Non, il a fait le couplet des actionnaires, c'est-à-dire, développer, et je crois qu'il, je sais pas s'il a dit développer la marque Bordeaux, mais c'est ça, l'image de Bordeaux.
Déjà, il a parlé surtout des,
Et c'est là où je vais vous être utile, car n'ayant pas vu la conférence de presse, j'ai quand même mes petites.
Voilà. Mais il parle de l'image. En fait, ouais. Il a le discours des actionnaires.
Il dit
aussi
qu'il veut augmenter le rayonnement des Girondins dans le pays. Et il dit la ville de Bordeaux est importante aussi en France et même par rapport au football. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que le club des Girondins puisse.
Ça, à la limite, c'est pas. On l'entend, on n'a pas forcément. Voilà, ça, c'est pas ce qu'on a forcément.
C'est étonnant de la part d'un coach. Parce que coach qui dit ça.
Mais ça, tu sais que tu vas l'entendre. Ouais. Moi, je m'en fiche. C'est un peu là, aller pour dire bonjour à tout le monde.
Il va pas te dire, je suis là parce que j'ai un autre.
Mais par contre, ouais, ce qui est intéressant, c'est quand il parle du jeu et aussi quand il. Bon, il a vraiment dit, en tout cas, et ça, je pense que c'est vrai, qu'il avait d'autres propositions. Je pense que c'est vrai.
Est-ce que quelqu'un lui a posé clairement la question, pourquoi vous avez choisi Bordeaux plutôt que la Roma, par exemple?
Ça, je sais pas. Ça, je crois pas.
En fait, sur les conférences de presse, jamais question presque. Voilà. On a juste entendu.
Par
Eric
contre,
Barrère,
il a vraiment dit qu'il était là parce que je pense qu'il a eu des relations, que c'est des relations entre agents. Je pense que ça. Oui. Il y a un réseau qui est là. Tu sens
le réseau. Dit que c'est pour les personnes
qui est en place.
Là.
Donc, à mon avis, il a bien compris le projet. On l'a. Quelque part, c'est pas. Tant mieux, c'est pas grave. C'est très bien. Moi, je préfère qu'il me dise, voilà, j'ai choisi Bordeaux parce que le projet m'intéresse, parce que je connais les mecs, parce que plutôt que le mec, voilà, il arrive, il sait pas trop où il est. Là, on dirait qu'il sait où il est et qu'il sait ce qu'on attend de lui. Déjà, c'est bien. Voilà.
Et
sachant
arriver du futur directeur sportif potentiellement.
Alors pareil, est-ce qu'il a évoqué ce sujet?
Ils vont pas évoquer.
Non, il a pas dit.
Et la question a pas été posée. Mais c'est le groupe quoi. Et un groupe qui se suivait déjà. Hein,
oui, il y a.
Macia et le
coach. Tu sens qu'il y a un réseau qui est en place là.
C'est
qui,
ça, voilà.
Mais c'est très bien, c'est bien.
C'est la bande qui arrive, qui fait bon, on va prendre s'occuper de ce club maintenant.
Il a commencé parce qu'on disait tout à l'heure sur la communication. Il dit je vais parler en portugais car je suis plus à l'aise pour la communication, mais je vais vite progresser en français et moi et tout mon staff allons parler en français. Voilà, déjà donc ça c'est clair. Ils vont faire l'effort. Oui. De toute façon, je pense.
C'est quelqu'un de professionnel, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus.
Voilà, j'allais dire déjà, c'est juste du professionnel. Si demain nous on va travailler en Espagne, on va pas demander à nos collègues de parler français,
mais
on va parler espagnol.
Pour 2 millions, je viens parler portugais hein, si vous voulez. Hein.
Non, mais voilà, c'est un minimum de.
Mais il est dans la séduction aussi, et même des journalistes. Quand il dit aux journalistes, c'est aussi à vous de donner une belle image de Bordeaux.
Ah oui, il a dit ça, c'est vrai que ça, on pourrait en parler ça.
C'est ça.
Ça, c'est drôle. Ça, par contre, c'est pas tous les jours qu'on entend ça quand même. Hein.
Alors, où il dit clairement, en fait, les journalistes, alors nous, on va tout faire pour que ça donne envie aux supporters et tout ça. Mais il dit quelque chose qu'on dit souvent quand on parle de Daniel Riolo, par exemple. Je sais que ça t'énerve. Mais il a dit, on sait que les supporters, leur avis souvent est fait. Par vous les journalistes, ce que vous dites sur l'équipe et tout ça. J'ai entendu un coach dire vraiment pareil,
mais en même temps à Paulo Sousa, je vais lui dire, mais tu veux dire quoi en ce moment sur l'équipe? On est nul.
Mais
les gens, ils ont pas besoin de l'équipe ou de Daniel Riolo. On est nul.
On veut que les journalistes parlent bien de Bordeaux.
Ouais, c'est ça.
À condition qu'il y ait du bien à en dire.
Voilà. Oui.
En ce moment, il n'y a pas de bien.
C'est juste après le discours qu'il dit, on va tout faire pour que.
Là où, à la limite, je pourrais le comprendre, c'est plus dans le cas, par exemple, de Paris ou de Rennes. Combien fait Rennes au Bétis?
3-3.
Fait 3-3 à l'aller. Et la quasi-intégralité de la presse française condamne quasiment Rennes pour le match retour.
Enfin, à l'aller, ils font pas 3-3, ils font.
Ils font 3-3 à l'aller.
C'est au retour qu'ils font 3-3.
Non,
c'est à l'aller, pardon.
Ils gagnent 3 au retour.
Oui, exactement, c'est vrai.
Tu vois, où la quasi-intégralité dit, bon, ça va être très dur quand même, allez, c'était bien, ils ont eu leur petit moment de gloire, nanana. Boum, il est déglingue derrière, Rennes, ils sortent. Là, tu dis, bon, ils reçoivent Arsenal, allez, c'est bon, allez, ça va être match de gala, en plus, match inversé, ils se sont fait carottes, les pauvres, là, bing, 3-1. Tu te dis, ah, quand même, bon, ça veut pas dire qu'ils se qualifieront, mais quand même.
Oui, mais bon,
Paris,
ils vont
faire un bon truc. Et pour vous dire comment, et les joueurs, et le club, et la presse française ne retient rien.
Tout le monde les voyait qualifiés.
À l'époque de la remontada, les Espagnols, pendant 3 semaines, ils étaient là, on y croit, on va le faire. J'ai entendu Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, commencer à monter la sauce, pour le match retour Atlético-Juventus. On va le faire, croyez-y. Ouais, mais nous, voilà, les seules questions que j'ai entendues aux journalistes français poser à des joueurs parisiens, en l'occurrence Thilo Kehrer, c'était la remontada. Vous vous souvenez, il était pas là, Thilo Kehrer, pour la remontada. Oui, qu'est-ce que oui. tu veux qu'il te dise?
Mais parce que ça a marqué.
Ah. Et là où il a pas été bon, Thilo Kehrer, c'est qu'il aurait dû lui dire, moi, la remontada, je connais pas. J'étais pas là, et j'ai pas peur, et je m'en souviens pas. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez entendu Gourvennec? Après le match, coup de sifflet final de Guingamp qui perd à Toulouse.
J'ai pas entendu,
on lui dit mais... Jocelyn, la semaine prochaine, Guingamp reçoit Dijon. Match à 400 points. Celui qui gagne, il est sauvé. Celui qui perd, il descend. Il dit, vous avez peur de perdre? Gourvennec, il lui a dit, on perdra pas. Il a même pas dit oui, peut-être on y pense. Il a dit on perd. Ça veut pas dire qu'ils gagneront.
Oui.
Mais dans la préparation, et je pense que c'est la peut-être ça qui veut dire Paulo Sousa. Si à chaque, mais en même temps,
ça,
c'est
intéressant
parce
que tu dis non, c'est vrai. Peut-être qu'ils veulent travailler ça aussi parce que tu parles de préparation
Adrien,
mentale.
Adrien, si tous les jours t'entends parler à ton travail, ton chef il te dit, malgré que tu fasses des trucs bien, on te dit t'es pas bon, t'es pas bon, t'es pas bon.
Non, c'est vrai que c'est pas.
Et au moment, tu finis par pas le croire et tu finis par pas être bon.
Même si tu dis oui, bien sûr, ça te touche. Ben oui, et c'est vrai. Non, c'est pas.
Tu vois ce que je veux dire?
C'est intéressant.
Mais après, qui disait ça hier soir, moi j'étais complètement d'accord avec lui.
Après, Bibé, il disait ça, mais.
Les Parisiens, on ne leur a parlé que de la remontada pendant 3 semaines. 3 semaines à
attends,
parler que de ça.
Attends, t'es Paris au bout d'un moment et les exploits se sont faits sur ça.
Mbappé, il a essayé d'inverser la tendance tout de suite et il a compris le truc tout de suite après le match aller de Manchester. Il a dit, faut qu'on arrête de faire peur. On est bon. Et qu'est-ce qu'il a pas pris dans la gueule?
Ah, mais
ouais,
scandale,
voilà, les prétentieux, les machins, les trucs. Mmh. Faut arrêter.
Mais après, le match Manchester, c'est eux qui le donnent. C'est même pas une question de.
Non, c'est la guigne aussi. Hein.
Ce que je veux te dire dans ce que veut dire Paulo Sousa, moi, c'est comme ça que je l'interprète, de dire. Donner une bonne image dans le sens arrêter toujours.
Mais c'est vrai que
voilà, ouais, ça va
si
se mettre
pour
en place.
Pour ramener ça à Bordeaux, on peut dire ben, la série d'invincibilité Bordeaux-Marseille. À chaque fois, Marseille veut jouer à Bordeaux. Première question des journalistes. Alors, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne?
Par
exemple, vous allez pas encore perdre comme d'habitude, comme vos.
Exactement.
Mais peut-être que les mecs, c'est pour
mais
ça
mais
aussi
c'est
que,
sûr.
Qu'ils arrivent pas à gagner.
Mais je te jure, parce que je vois que ça comme explication, sauf. Enfin, je veux dire, y a pas de.
Ça ancre dans le truc. C'est
valable pour Saint-Thé à. Je crois qu'il y a la même série de Saint-Thé à Marseille aussi qui a pas gagné depuis 45 ans.
Ça va, tu vois, Marseille à Paris, qui bat plus Paris. Marseille depuis, je crois, 10 ans presque.
Depuis le Qatar.
Mais c'est pour ça qu'il est dans ce côté séducteur aussi. C'est vraiment ce qui marque de la conférence quand ça fait 3 minutes
pour faire changer les choses à Bordeaux. Enfin, du moins avant.
Mais ça faisait 3 minutes que la conférence avait commencé. Et à un moment, il y a un journaliste qui pose la question. Ah, il dit en gros, la question est intéressante. Il dit, c'est quoi ton prénom? Et il note. Il note le prénom journaliste.
C'est normal. Non mais guette.
Oui.
C'est normal parce que je pense que les journalistes qu'il a eu en face là, il va être amené à les avoir. Toute la saison, à chaque match, ça fait toujours plus classe de faire hey, toi, Nicolas. Ouais,
oui, mais
toi,
il note
Roger,
le truc
vas-y.
Et tout ça. Et voilà, c'est vraiment dans le côté séducteur.
En gros, dans une semaine, il va les inviter à l'apéro là,
c'est
chez
ça.
Lui, les journalistes, ça va être bien.
Bon, mais c'est
on va acheter les journalistes
fait,
comme
non,
à
c'est,
Lyon.
Ça se fait, qu'ils bouffent tout, entre eux, les journalistes, oui, machin. Fred Hermel, pas plus tard que cet après-midi, en parlant de Zizou au Real, il dit, hier, j'ai encore confirmé un déjeuner demain avec, un de ses adjoints. Bon,
bien
finalement,
sûr,
il va pas le faire. Voilà, donc ils se connaissent tous et voilà. Après, il y en a qui refusent, de fonctionner dans ce genre de truc. Est-ce qu'il a parlé, Paulo Sousa, de, moi, il y a un truc que j'attends de mes vœux, mais alors j'espère qu'il va le faire. J'aimerais, qui me disent Paulo Sousa dans la semaine là ou avant le match de Rennes dans la conférence d'avant le match, il dit voilà, mon équipe type, celle que vous allez voir contre Rennes, ça va être mon équipe type, nonobstant blessé et suspendu évidemment, ça va être mon équipe type jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin du championnat, je vais commencer avec ces 11 gars là parce
il
que
a pas dit hein.
Non mais ben, il vient d'arriver donc on va lui laisser le temps. J'en peux plus, je sais pas comment t'analyses ça toi Adrien, on en discute souvent, j'en peux plus de voir un coup Palencia à droite, un coup Sabali à gauche. Puis le match d'après, c'est Pungé à gauche, Sabali à droite. Bon, la charnière, elle change pas beaucoup. C'est Jovanovic, Pablo, ça, à la limite, ça va. C'est le seul truc qui est à peu près stable. Un coup, c'est Sabali qui est arrière droit. Puis un coup, on lui met Caramo, milieu droit. Puis un coup, c'est Palencia qui est arrière droit. Et puis on lui met Caramo. Et puis un coup, c'est Pungé arrière gauche et on lui met Camano. Puis un coup, c'est Sabali arrière gauche et on lui met. J'en peux plus de ça, moi.
Après,
et puis un coup, ton attaque, c'est Cornelius Briand. Camano, puis un coup c'est Caramo, Kalou, Cornelius, puis un coup ton milieu c'est Otavio, j'en peux plus de ça, j'en peux plus. Après on s'étonne, on dit ils savent pas se faire des passes. Forcément, ils jouent pas deux fois dessus. Enfin, je sais pas.
Après, il y a deux possibilités. C'est soit quand c'est pour s'adapter à un suspension et une blessure, tu te dis bon, allez, ok, d'accord.
Sur un match, oui.
Mais après, quand tu vois par exemple les vainqueurs de. Bon, on va prendre le top, les vainqueurs de Ligue des Champions, ça c'est vrai que t'as toujours. L'équipe, tu sais que Barcelone il joue comme ça, que Tourelle il a mis son 3-5-2, que.
quand tu regardes le Real, le Barça, le Bayern, t'as zéro surprise, sauf blessé.
Parce que t'en as qui vont te dire, ah oui, mais alors il faut s'adapter à l'adversaire. Ben non, non, quand t'as une équipe qui est construite, on s'en fout. Deschamps, il a gagné la Coupe du Monde. Tout le monde savait qu'il allait mettre Messi derrière, Mbappé devant qui court, et voilà.
Deschamps, il a fait la même chose contre les Belges, contre les Croates, contre le Honduras, contre. Il a fait tout pareil.
Donc, moi, je suis aussi pour le fait d'avoir son équipe et d'arrêter d'inverser, de machin. Déjà, Sabelli, depuis qu'on le met à gauche, il est nul. Il était très bien à droite. Il a toujours été à droite, de toute façon. Mais ouais, non, je serais pour ça. Après, je comprends pas trop. Après, qu'est-ce que. Bon, j'espère qu'avec Souza, ce sera différent.
Il y avait des choses quand même sous l'ancien, j'allais dire sous l'ancien régime. raccord avec l'actualité en Algérie. Avec, non, on s'adapte à l'actu, tu vois. En ce moment, putain, en plus, il se passe aujourd'hui, là, aujourd'hui, réaction. Tout est tombé, là, mon pauvre. Ouais. Un crash d'avion, un président qui se présente plus, un entraîneur qui revient, bref, tout est,
tout est lié.
Non, mais, j'aimerais avoir un jour physiquement devant moi monsieur Bédou, monsieur Ricardo, et lui dire expliquez-moi quel est votre projet dans votre tête quand vous nous dites on va mettre Dries Trichard à l'arrière gauche contre Toulouse, sachant que Poulger était valide, que Sabali était valide et que Palencia était valide. Donc vous le voyez, il fait un match correct.
Je sais pas s'ils étaient tous valides par contre.
Enfin, Pungé, c'est sûr, était sur
Sabali
le
Sabali était en tribune pour être valide, puni, je crois.
Et voilà.
Pungé, ouais, il était.
Donc, expliquez-moi pourquoi vous le mettez là. Et donc, il est pas trop mauvais. Bah, le match d'après, moi, contre Guingamp, je m'attendais à le revoir. Ah ben non, ça y est, fini.
Non, c'était comme ça pour le.
C'est quoi le projet?
Ça, par contre, c'est incompréhensible.
C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que. Je comprends pas. Et j'espère que Paulo Souza va amener ça.
Tout le monde s'est posé la question, hein. Tout le monde s'est dit, mais pourquoi alors, si tu le mets, c'est pour le. C'est
comme quand. Ils font pareil avec Vada, ils ont fait pareil
c'est
avec.
C'est pareil avec même quand t'achètes Adli Maja, tu les fais pas rentrer, ils jouent pas, mais même pas un quart d'heure. Bon là, il est rentré. Là,
Adli, il joue 10 minutes en fin de match.
Il y a le phénomène Basic où il y aura 6 mois de préparation physique et tout ça.
Oui, alors mais, si c'est pour
Maja,
comme Basic,
c'est vrai.
Mais, après, ils sont jeunes, d'accord, c'est vrai, ils sont très jeunes, mais maintenant, ils peuvent jouer des bouts de match au moins. Si on les achète pourquoi
pour l'année prochaine, préparons le futur.
Ouais, voilà, c'est non, mais c'est inutile. Là, on va être sauvé définitivement mathématiquement. J'espère que là, qu'ils les mettent là, du coup.
Si on barène, on peut dire qu'on est 33 points. 34
32
33
ou 33
on est à 33
je crois, voilà.
Allez, si tu barènes, t'es à 36
quand tu vois comment ça joue derrière, sachant que Rennes, t'es sauvé, hein.
On y en reparlera vendredi, ça va être
ils seront fatigués, ils auront fait la fête
Rennes,
ou pas.
On peut les taper, hein.
Soit ils se font éliminer jeudi soir et on peut se dire qu'ils auront peut-être un petit peu la tête dans le sac, soit ils se qualifient. Ils peuvent être encore sur l'euphorie, ouais, voilà. Parce que là en ce moment à Rennes, je sais pas si le match contre Caen, en ce moment c'est les mecs, ouais, je te dis, c'est.
Mais c'est vrai que. Ouais,
en avant vers la lune, hein, y a plus rien qui les arrête. On va continuer à parler de Paulo Souza avec notre invité du soir, c'est le journaliste de Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Surtout aujourd'hui, journée un peu.
Voilà. Non, pas pour moi, parce que j'étais pas à la conférence de presse. Alors, je l'ai suivi comme vous en vidéo, voilà, mais j'étais de repos. Donc, j'ai suivi de loin, c'était mon.
Alors, double merci en ce jour de repos.
Pardon?
Double remerciement si c'est un jour.
Oui,
de repos.
Non, bah, pas de soucis. Pour l'anecdote, j'étais déjà venu pour vous, juste après l'intronisation de Gustavo Poyet.
Exactement.
Donc,
voilà, on s'était vu juste après Gustavo Poyet, ouais.
On se voit beaucoup.
C'est pas du vieux.
Ouais. Alors Nicolas, l'arrivée de Paulo Souza. Honnêtement, je n'ai vu, lu et entendu, que ce soit sur les réseaux, les médias locaux, que ce soit Sud-Ouest ou d'autres, et les médias nationaux, je n'ai entendu et lu que du bien sur ce garçon. À part peut-être sur son entre guillemets instabilité où il reste pas longtemps dans les clubs où il passe. Mais
ben, disons que dans son parcours, alors forcément, de toute façon, quand on va chercher des témoignages comme ça sur des témoignages d'entraîneurs, c'est souvent positif, hein. Les gens négatifs, souvent ils ont tendance à pas répondre, donc c'est pour ça que souvent le positif ressort de ce genre de papier avant nomination. Après, il ressort effectivement de son parcours quand même beaucoup de positifs, sachant que ses échecs entre guillemets datent de ses débuts en Angleterre. C'est-à-dire qu'il a été lancé assez tôt et assez jeune comme entraîneur à QPR et à Leicester, notamment, où ça s'est pas très bien passé, mais c'est vrai qu'il était jeune, assez inexpérimenté. Et après, il a eu le mérite, c'est plutôt un mérite, hein, conseillé également par ses agents, de finalement de se faire la main en passant par des championnats un peu secondaires. avec des grosses cylindrées de ce championnat, donc où il avait quand même des moyens par rapport à la concurrence pour mettre ses idées en place et pour avoir des résultats. Et s'il y a eu cette instabilité, c'est que finalement il a eu une progression finalement dans sa carrière, puisque de Vidéoton il est parti au Maccabi Tel Aviv en Israël. Du Maccabi, à l'époque d'ailleurs les Girondins l'avaient un peu approché, il a choisi de partir à Bâle, donc qui est une grosse cylindrée suisse, et de Bâle il a choisi de répondre à la Fiorentina qui est venue le chercher via des intermédiaires pour aller à la Fiorentina. Donc il a eu finalement une carrière croissante avec, s'il n'est pas resté au même endroit, c'est souvent des choix de lui-même pour grandir dans sa carrière d'entraîneur. La seule fin finalement un peu récente croissante, c'est à la Fiorentina où il était plus sur les derniers mois sur la même longueur d'onde que les dirigeants, que le directeur sportif sur l'ambition à donner au club et la direction, ce qui fait que il y a eu de la friction sur la ligne et que après la 8e place de la deuxième saison non qualificative européenne, la Fiorentina n'a pas renouvelé son contrat, mais lui n'était pas forcément non plus chaud à renouveler son contrat.
Monsieur, non,
vas-y. Ouais, bah, du coup, c'est intéressant. Ça montre, moi, je me posais un peu la question. Je me disais, est-ce que le fait qu'il ait eu comme ça des passages assez courts et qu'il soit un peu un globe-trotteur, entre guillemets, est-ce que c'est lié à des un peu comme Poyet, des fois, des frictions ou des mauvais choix?
Non, quand on regarde derrière, c'est quelqu'un qui a du caractère, qui sait où il va. C'est-à-dire qu'il a quand même, voilà, il a des desiderata, il a une pression sur les dirigeants, mais quand on regardait la carrière de Poyet, partout, ça s'était quand même fini en conflit avec les dirigeants.
C'est presque l'inverse.
Là, c'est pas le cas.
Donc c'est un peu rassurant, c'est rassurant aussi. Ouais.
Que ce soit Israël, Suisse, c'est vraiment lui qui aussi est dans une logique de progression de carrière, avec l'objectif de, je suppose, d'arriver dans un très grand club au final. Déjà, il est dans un grand club à Bordeaux. Et après on verra bien, mais bon, c'est vrai que là il est sur la durée, donc c'est vrai que ça c'est intéressant, parce que la première fois quand même aussi qu'il arrive dans un projet où il sera, il aura un rôle très important dans le projet, sur de la construction, sur de la durée, quoi. Souvent là, ces derniers temps, c'était un rôle dans des clubs qui étaient déjà quand même bien installés, quoi.
Est-ce que c'est pas ça qui a joué aussi en la faveur de Bordeaux par rapport, alors bon, on saura jamais, mais de ce qui se disait, la Roma a été quand même plus ou moins intéressé avant de prendre Ranieri par son profil. Est-ce qu'on sait si c'est ça qui a joué dans la balance le projet à long terme sur pour l'instant? Donc il a signé un contrat de 3 ans. On lui demande aussi peut-être un petit peu de rebâtir, allez pas tout, j'exagère, mais de grandement remanier cette équipe pour en faire quelque chose, là où peut-être à la Roma on lui aurait peut-être demandé des résultats peut-être plus vite, plus rapidement, et on lui aurait peut-être laissé peut-être un peu moins de temps pour construire quelque chose.
Ah bah c'est des projets qui auraient été complètement différents, parce que vous arrivez dans la Roma qui est un grand club où il y a une exigence des résultats, non pas ce qui n'existe pas à Bordeaux, mais c'est vrai que la Roma c'est quand même une exigence des résultats tout le temps, c'est se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est
jouer le titre,
c'est jouer le titre, donc c'est pas du tout le même projet qu'aujourd'hui au Girondins, où là on est quand même dans de la reconstruction quand même. Là on repart en vue à partir de la saison prochaine quelque part sur l'année 1, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a deux projets complètement différents. Après sans connaître exactement ce qu'on lui proposait à la Roma, et il faut appeler un chat à chat. Aujourd'hui GACP voulait Paulo Sousa depuis le début. Il le voulait lorsqu'ils sont séparés de Ricardo, il le voulait déjà. Je pense qu'il avait déjà sondé parce qu'il était notamment au Parc des Princes pour le match contre Paris début février. Et ils ont mis les moyens pour le convaincre, parce que c'est 3 ans et demi de contrat, c'est un salaire important, c'est 4 adjoints. C'est des choses, je sais pas si la Roma aurait accepté toutes ces conditions. Donc c'est vrai que pour lui, c'est quand même une marque de confiance du club, c'est-à-dire qu'on lui dit tu viens pour longtemps avec un salaire, les adjoints qui ont un contrat également longue durée. On donne les clés du camion, mais tu auras quand même un vrai poids. Donc c'est vrai que forcément pour un entraîneur, c'est séduisant.
On en parlait tout à l'heure en première partie d'émission avec le futur directeur sportif qui arrive. C'est aussi, alors je trouve qu'on en parle peu, mais c'est aussi le premier acte, ou le comment on appelle ça, le premier acte de la nouvelle direction, de dire on va se doter, on va mettre les moyens financiers
humain et donc financier, de se doter d'un staff, comme disait Nicolas, conséquent, 4 adjoints plus Bédoué, c'est quand même pas rien. Je crois qu'ils sont, ou même plus. Ou qu'ils sont,
bah, disons qu'il y a quelque chose, je vais me permettre de vous couper, ça va être 5 adjoints plus Bédoué. On se voit pas. Mais en fait, il y a quelque chose qui a rarement été relevé dans le discours de GSTP et de Géoda Grossa depuis le début, depuis même les semaines avant la conclusion de la vente. Quand on lui posait, est-ce que vous allez prendre des stars, des joueurs, il a toujours dit, la première chose qu'on veut faire, nous, c'est prendre des cadres, des cadres qui encadreront le projet. Notre première mission, c'est d'investir sur les gens, les cadres qui vont mener ce projet. C'est un discours qu'il a dit, vous prenez ses premières interviews. Alors forcément, c'est des choses qui parlent un peu moins aux gens parce que ils attendent des joueurs, c'est voilà. Mais lui, il a toujours répété. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il décide d'investir sur les cadres qui vont devoir mener le projet, sur des gens qui pensent conséquents, et il met les moyens pour avoir ces gens-là.
Ah bah là c'est, voilà. Donc c'est énorme. C'est l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du club. Enfin, c'est quand même un truc. Et puis, c'est pas 100 000 balles, quoi. C'est 250 000 euros. Je sais même pas si on a donné ça. Si, on a dû donner peut-être ça à un joueur, mais très rarement. Peut-être un Gourcuff, et encore, je suis même pas sûr.
Oui, peut-être 300 000 Gourcuff. Après, bon, c'est vrai que moi, parler d'argent, tu vois, bon, je me dis, j'ai même pas envie de savoir, en fait. Ils ont mis les moyens, tant mieux, et qu'ils fassent maintenant ce qu'on lui a demandé de faire. Et ça montre en tout cas, avec les moyens qu'ils ont mis, qu'il y a une vraie volonté de la part de la direction
de construire
quelque chose.
C'est pas un gage de réussite.
Ça montre deux choses. C'est une vraie volonté de la direction d'avoir effectivement ces cadres. Et ça montre aussi, c'est une marque de confiance envers Paulo Sousa. Et je pense que lui, il a pris comme ça en me disant, voilà, si on investit autant pour toi, c'est aussi que tu vas avoir, il y a une certaine pression, mais tu as aussi un rôle important dans le projet. Et ça, c'est sûr que c'est valorisant différemment qu'un projet à la Roma où vous savez que si vous enchaînez 5-6 mauvais matchs, ouais. Vous pouvez faire que 2 mois et repartir au bout de 2 mois. Ouais. Donc c'est vrai que c'est des choses difficiles. Après, ça ne veut pas dire qu'il aura carte blanche si jamais ça se passe mal. Mais aujourd'hui, en tout cas, sur l'année à venir, en tout cas, il a quand même, il aura du poids pour la reconstruction.
Est-ce qu'on sait, alors ça c'est une question que je vous pose, je pense pas qu'il a dû en parler cet après-midi, mais est-ce qu'on sait si dans son rôle d'entraîneur et qui sera, on l'a compris, peut-être un petit peu élargi, moi il y a toujours un truc, est-ce qu'il aura les joueurs qu'il souhaite ou est-ce qu'il aura les joueurs qu'on lui mettra à sa disposition? Ou est-ce que ce sera peut-être un mélange des deux?
C'est la concertation. Mais...
C'est une vraie question. Alors jusqu'ici, les Girondins, ça a toujours été un peu flou dans la concertation. Donc, comme souvent, la personnalité de l'entraîneur a peut-être été, depuis le départ de Jean Camporo, était plus forte finalement que parfois que le poids qu'avait eu Ulrich Gramé, qui est directeur technique sportif, donc qui avait un rôle un peu hybride, etc. Donc souvent, les entraîneurs ont eu le dernier mot. Aujourd'hui, dans le projet GACP, a priori, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est Hugo Varela, qui est actionnaire. Hein. Hugo Varela, il fait partie de GACP, et le directeur sportif, qui seront moteurs pour apporter les joueurs. Après, ils amèneront des joueurs là où le coach va leur demander. C'est-à-dire s'il veut un latéral gauche, un numéro 10, c'est à eux d'apporter des noms. Après, Paulo Sousa apportera peut-être ses noms. Mais par contre, le décideur, ça sera bien Hugo Varela, le directeur sportif, puisque Hugo Varela, c'est l'actionnaire. Donc c'est lui qui tranchera sur les investissements, donc forcément, c'est toujours une des questions de savoir est-ce que ça va bien fonctionner, est-ce que ça va fonctionner sur le long terme, sportivement, humainement, parce que dans tous les clubs, c'est pareil. Et c'est vrai que ça va être intéressant, parce que c'est un peu une petite révolution quand même pour les Girondins, avec le retour d'un directeur sportif fort et puis même un actionnaire qui connaît le sportif. Parce que c'est comme si, quelque part, l'adjoint de Nicolas de Taverneau avait été lui-même chercher les joueurs, etc. Quoi. Mmh. C'est le cas avec Hugo Varela.
C'est vrai qu'on se rend peut-être pas forcément compte du truc, mais petit à petit, voilà, ça se met en place. Alors petit à petit, les cases se remplissent, hein. Quand Joe Dagrossa est arrivé, il n'y avait pas de président, il n'y avait pas d'entraîneur, t'avais Bédoué qui faisait l'intérim, mais on s'est dit peut-être qu'il Ricardo était pas encore là, donc il y avait pas de président, il y avait pas de directeur sportif, il y avait voilà, il y avait Da Grossa et Longuepé. Et encore Longuepé est arrivé que en décembre là où Da Grossa est arrivé en octobre ou en novembre, je sais plus trop. Petit à petit les cases se remplissent. Il te manque ton directeur sportif qui va arriver, t'as ton coach, t'as ton staff, t'as ton président, t'as ton propriétaire, t'as ton Varela. Nicolas t'as dit mince, j'ai
c'est
bouffé le nom.
Un actionnaire Varela.
Non non mais oui mais enfin c'est un actionnaire qui a quand même un rôle.
Oui,
qui aura
quand même un rôle plus.
Non
Varela, il a quand même un rôle qui a l'air d'être très, très actif pour un juste pour un simple actionnaire.
C'est l'actionnaire qui.
Petit à petit tout ça se met en marche. Et j'ai l'impression que ça se fait avec des moyens qu'on n'avait pas connus depuis. Enfin, moi, du moins, c'est comme ça que je
le termine. C'est une méthode. Pour des moyens, bon, ça on verra. C'est encore un autre débat. C'est une autre question. En tout cas, ils ont investi sur le staff. Ça c'est clair. Parce qu'il y a un petit pari aussi par rapport à l'avenir. Mais c'est une méthode. C'est-à-dire qu'il y a une vraie méthode du ACP. Qui a été expliqué par Joe Da Grossa, qui a été expliqué par Frédéric Longuepé, plus au niveau commercial, administratif, à son niveau, que Hugo Varela est en train de développer et en train de mettre en place pour le secteur sportif. Il y a une vraie méthode, ils s'y tiennent, ils savent où ils vont, ils veulent structurer, voilà. Eux, ils ont un objectif, c'est que de faire progresser le club pour qu'il soit plus présentable dans 3, 4, 5 ans, quand arrivera la possibilité d'une revente. Donc être plus présentable, c'est d'être plus structuré, c'est d'avoir des meilleurs résultats financiers, c'est d'avoir des meilleurs résultats sportifs, et y mettre en place la structure pour arriver à ça. Donc c'est vrai que c'est une... Ils savent où ils vont, ils y vont. Voilà. Après, est-ce que ça va marcher, pas marcher, on ne sait pas. Mais il y a une vraie méthode.
Une dernière question, Nicolas. Si tu as la réponse, sinon c'est pas grave. Est-ce qu'on sait ce qui a décidé la direction du club à agir maintenant, puisque nous, en tant que simples supporters, on se rendait bien compte que ça faisait un moment qu'on pataugeait dans la semoule et qu'il se passerait rien et que il allait rien se passer de plus jusqu'à la fin de saison. Qu'est-ce qui a poussé la direction à changer d'entraîneur maintenant et pas il y a un mois par exemple?
Disons que après le match de Paris, donc le 9 février, bon, commençait déjà un petit peu à circuler que y avait de l'inquiétude de la direction par rapport au visage montré et puis la courbe et la spirale un peu de l'équipe. Après il y avait les trois matchs donc à suivre, Toulouse, Guingamp et Nantes. Qui semblait un petit peu un moment charnière, disons, où s'il y avait effectivement un risque qu'il soit démis de ses fonctions avant. Je pensais que la victoire contre Toulouse, qui permettait quand même d'assurer quasiment le maintien, même s'il n'est pas assuré aujourd'hui, la victoire contre Toulouse, c'était quand même un pas qui faisait dire que, sauf énorme catastrophe, l'équipe était sauvée. Je pensais que ça aurait suffi. Et après derrière il y a eu les deux matchs, donc Guingamp et Nantes avec un visage quand même assez triste et avec pas beaucoup de vie, pas beaucoup de réaction. Et je pense que ce manque de réaction, ce manque de vie de l'équipe a joué forcément de se dire il faut faire quelque chose parce qu'on n'avance pas, parce qu'on sent pas de réaction, etc. Donc je pense que ça a influé. Et puis après la deuxième chose, c'est que je pense que je serais convaincu même que Paulo Sousa, le nom était déjà étudié pour remplacer Ricardo en fin de saison, qu'ils ont dû le sonder sur éventuellement une possibilité de venir tout de suite, il était libre, hein, et que tout le monde s'est mis d'accord, GACP et King Street, en disant que ce profil les intéressait et voilà. Et donc c'était déjà dans leur tête avant de licencier Ricardo. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas eu déjà le remplaçant ciblé, identifié. Voilà, alors c'était passé, attention, mais ils ont mis les moyens pour le convaincre. Mais je pense qu'eux, ils avaient déjà une bonne idée que ça pouvait se faire. Je pense qu'ils auraient pour continuer encore avec Ricardo s'ils n'avaient pas eu, entre guillemets, le remplaçant qu'ils voulaient sous la main. Voilà. Après, c'est vrai que pour Ricardo, il y a aussi eu une cassure qui l'a fragilisé, c'est forcément la défaite en demi-finale de Coupe de la Ligue, qui a fragilisé l'ensemble, qui a fait ressortir un peu plein de choses et qui a compliqué sa tâche à lui, forcément, et qui l'a fragilisé. Et il savait à partir de là que le moindre série de mauvais résultats, il serait fragilisé.
Celle-là, elle a fait très 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 mal, parce que je répète souvent dans cette émission, je me mets à la place des Américains, je me mets à la place de Da Grossa, ils prennent le club en novembre, par miracle, le PSG se fait sortir en Coupe de la Ligue. C'est-à-dire que tu arrives en demi-finale, tu te dis, attends, je suis arrivé il y a 2 mois. Si ça se trouve, au bout de 4 mois, je vais gagner un trophée. Je veux dire, pour commencer ta nouvelle histoire dans ton nouveau club, pour te mettre bien avec les supporters, les joueurs, les salariés du club. Enfin, je veux dire, pour impulser un truc positif d'entrée, il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux. C'est-à-dire que tu arrives en novembre, boum, en mars, tu gagnes une coupe. Qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? Et non. C'était peut-être la seule. Voilà, c'était peut-être
après,
la seule chance
que
pour
ce match
club.
A été mal préparé globalement par le club, et c'est pas que la faute de Ricardo. C'est que globalement, l'équipe n'est pas arrivée dans un contexte de performance sur ce match qui devait effectivement être le match de la fin de saison, le match de la saison, parce qu'il y avait un enjeu lourd et le contexte était pesant, hein. Il y a eu le départ de Rager la veille, la situation du mercato, et on n'a pas ressenti en côtoyant l'équipe, etc., une union sacrée du club en disant voilà, là c'est le match, venir devant la presse, dire voilà c'est le match, voilà on joue notre saison là-dessus, et ça on l'a pas senti avant. Et bon, alors, est-ce que ça aurait suffi pour gagner, c'est encore une autre histoire, mais on n'a pas senti ça, et résultat ils sont un peu passés au travers, et c'est pour ça que ça a été un échec, mais un échec aussi global, et un petit peu de JACP aussi qui a pas su faire passer non plus ce message sur ce match-là, quoi.
Je pense que ça, d'ailleurs, ça a été très très mal vécu par la. Il me semble, des bruits que j'ai entendus, ça a été vraiment, ce match a été très très mal vécu par Joda Groza. Ça a vraiment, je pense, gueulé, tapé du poing sur la table. Et ça a été peut-être leur première, peut-être pic. Et on voit que là aussi, le fait de venir faire venir plus tôt un entraîneur comme Souza, c'est aussi peut-être une volonté vraiment d'effacer. Déjà ce premier échec,
c'est autre chose.
Parce que c'est quand même un échec, parce que c'est un échec sportif, économique,
quand
médiatique.
Quand t'es en demi-finale avec Monaco qui est dernier, Guingamp qui est 19ème et Strasbourg, et
si tu saisis
Paris,
pas l'occasion,
si
t'as la chance.
Si tu la saisis pas maintenant,
c'est dommage,
jamais
quoi.
Tu la gagnes.
Tu la saisis pas. Là, c'était l'année. Malheureusement, c'est l'année où tu pouvais la saisir cette chance. Je souhaite que ça se reproduise. Hein,
peut-être
mais
ça arrivera l'an prochain, on ne sait pas. Mais jusqu'à présent, depuis 10 ans, c'était la seule année.
C'est terrible de faire un match. Enfin, après, on va pas revenir dessus. Mais
tu
ouais,
pouvais
c'est
faire
vrai
quelque
que
chose, mais tu l'as pas fait. Enfin, bon, bref,
le pire, bon, le match, il se joue sur un quart d'heure au pire.
C'est encore un qui marque en plus.
Juste pour terminer, Nicolas, la prochaine grosse actualité, puisque bon, là maintenant, je pense que ça va retomber un petit peu, on va laisser travailler Paulo Souza, son staff, jusqu'à la fin de saison tranquillement. On attend maintenant la venue d'Eduardo Macia. Si j'ai bien compris, ça devrait se faire entre fin de saison et pour préparer le mercato, de ce que j'ai compris.
Je peux pas vous dire quand est-ce qu'il sera effectivement là, et il y aura toujours, tant qu'il ne sera pas là, un mini-doute pour que ça se fasse.
C'est vrai qu'officiellement, il n'y a rien de fait.
Non,
aujourd'hui, il est toujours sous contrat avec Leicester. Leicester l'a pas libéré. Il sera toujours sous contrat la saison prochaine avec Leicester, hein, potentiellement. Donc, tant que Leicester ne l'aura pas libéré, lui il bosse encore pour Leicester, hein. Il était sur un jeune anglais là de Liverpool sur un prêt il y a pas très longtemps. Donc il est entre les deux, puisqu'on sait qu'il est proche de GACP, hein. Il a été conseiller de GACP dans le montage du projet aussi avant même que la vente se conclue. Donc on en est là, il est voilà, tout le monde l'attend, mais aujourd'hui c'est pas fait contractuellement. Donc là il y a un nouvel entraîneur à Leicester. Qui a priori en plus souhaiterait selon la presse anglaise en tout cas souhaiterait que le chef du recrutement du Celtic Glasgow où il était avant le rejoigne à Leicester, donc ce qui peut forcément faciliter les choses pour une éventuelle libération d'Eduardo Macia. Mais bon, aujourd'hui aujourd'hui contractuellement il y a rien de fait, hein, donc voilà, donc il est présent entre guillemets, tout le monde l'attend, j'ai accepté l'espère, etc., mais aujourd'hui il est pas là.
Eh bien, on suivra tout ça très prochainement dans les colonnes du Sud-Ouest avec toi, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir cette partie d'émission avec nous. Et puis, bonne continuation, parce qu'il y a quelque chose qui me dit qu'il risque d'y avoir pas mal de boulot dans les dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Ça fait quelques semaines qu'il y a pas de boulot à Lyon, mais quelques.
Bah, voilà. C'est bien, au moins
ça
bouge.
Une bonne année et demie.
On va dire qu'il y a des trucs qui bougent. Merci Nicolas le gardien, merci beaucoup.
Voilà, pas de soucis.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Hop là, eh ben tranquillou, ça va nous amener jusqu'à 21h54. On est bon, on est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire, Nicolas Le Gardien, que vous retrouvez dans
Sud-Ouest.
Sud-Ouest, je l'ai dit. Émission que cette émission, vous pouvez la retrouver aussi en podcast dès que tu l'auras.
Dès
fait.
Que on l'aura mis pour en ligne terminer, et en espérant que ça marche.
Pour terminer, quand même quelques petites news comme ça à droite à gauche, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur
le football, sur les féminines.
Et j'allais dire sur Dasouza. Je viens de faire un mix entre Dagrossa et.
Ah, moi j'ai fait Souza avec un Z aussi, mais en fait c'est brésilienne ça, donc c'est
Souza.
En fait c'est avec un S, c'est Polo.
C'est avec un S, c'est Polo.
C'est pas Paolo, c'est Polo.
Paolo. Polo. Ah oui. Ouais, c'est Polo, c'est quand t'es français, tu sais. C'est Polo, Polo Suze quoi, tu vois. Paul Suze.
Paolo c'est italien et Polo c'est pas.
Alors.
Paolo.
Quelques petites informations.
En portugais.
Quelques petites informations un petit peu plus légères pour terminer cette émission. Déjà, on apprend que Eric Bédoué aurait un rôle spécifique auprès des jeunes pros.
Il a l'air, il en a parlé en conférence de presse. Hein.
Voilà.
Il a laissé entendre qu'il serait dans la post-formation.
Il se dit que Eric Bédoué aurait un jeune. aurait un rôle se spécialiser dans la préparation physique des jeunes encore en post-formation. Et c'est vrai que dans cet effectif, il y en a beaucoup. Il y a Basic, il y a Palencia, il y a Maya, il y a Caramo pour plus très longtemps, mais il est encore là. Palencia, en espérant qu'il reste, mais ça va être. Voilà, il est que prêté. Adli, il y a Bellanova qui va arriver aussi. Il va y avoir le retour de. Du petit jeune de Mancini, de Auxerre. Il y a le retour de Boumpenza.
Fait un bon qui est pas mal à Auxerre. Il y a deux semaines,
il était sur un but de passe D, je crois, ou un truc comme ça.
Il fait son petit trou tranquillou en
Ligue 2. Donc voilà, Eric Bédoué aurait un rôle peut-être un petit peu là-dedans. Toujours à propos d'Eric Bédoué, il a eu le droit à son petit hommage par les ultramarines via la voix de son porte-parole, de l'un de ses porte-parole, Florian Brunet. Alors attendez, il suffit que je vous dise ça pour que je perde la petite brève. Ce n'est pas grave, je vais la retrouver. On va passer à quoi donc? Qu'est-ce que je voulais vous mettre? Parce que alors que je vous explique, j'ai un écran blanc.
Mais en attendant, le temps que tu cherches,
refuse de tout télécharger, c'est assez.
Temps que tu cherches, on félicite les féminines. J'allais
finir en parlant des filles. Mais t'as raison, on va y revenir. On va en parler des filles.
Pour
les filles
leur
qui font une saison quand même.
À Évry, Fleury.
Mais elles sont toujours
troisième, 3 points d'avance sur Montpellier.
Pour ceux qui suivent pas la D1 féminine, c'est-à-dire que vous avez Paris et Lyon devant, c'est l'équivalent du Barça et du Real. Hein.
C'est ça.
Ils sont intouchables. Ils ont
même en Europe, c'est pas loin. Ça veut dire qu'il y a une finale de Ligue des Champions l'an dernier ou il y a deux ans.
Même en Europe, elles sont monstrueuses les deux, donc elles sont intouchables. Et ben l'équipe qui est juste derrière et qui défonce toutes les autres, notamment Montpellier, anciennement Juvisy,
on les avait battus cette année Montpellier.
C'est Bordeaux. Ce qu'a fait
premier match 1-0, je crois.
Il n'y a pas beaucoup de choses qui marchent dans cette équipe, mais ce qu'a fait Bordeaux en très peu de temps.
Et encore là.
Avec la section féminine. Chapeau
vous pouvez toujours retrouver le podcast en ligne podcast, mais attends, je vais avoir un ORL après, mais
orthophoniste demain 8h toi.
Ouais. Non mais Stéphane Martin, avec qui on avait posé la question sur la section féminine où il y avait eu vraiment ce déclic, on les avait reçus nous au moment où elles allaient se maintenir.
Oui. Oh. Elle s'était maintenue le lendemain de leur maintien.
Alors, on avait eu Elisa Launay qui joue maintenant à Lille, avec qui on avait discuté en rigolant du maintien et tout ça. Et puis, elles se sont maintenues. Même Stéphane Martin s'était fait avoir parce que eux pensaient à un moment, en allant les voir, qu'elles étaient éliminées. Et il y a une joueuse qui a dit, non, mais on peut encore se maintenir. Ah, d'accord.
la bourde.
Elles l'ont même pas fait payer. Mais où on avait d'ailleurs demandé si après ce maintien, vu qu'il y a eu vraiment eu l'impression d'un investissement à partir de ce moment-là, il avait dit non, c'est l'ordre naturel des choses. Et qui avait eu maintien ou pas, il y aurait eu un investissement. Et puis là, on a eu encore Joe Dagrossa qui en rajoute une couche. Là, il y a dans la vidéo YouTube qu'ils ont fait pour le Journée de la Femme. Donc, c'est positif. C'est positif quand vous vous engagez des joueurs comme Claire Lavogé, qui a encore fait une passe D et qui sublime des joueurs
mais
comme
la petite
Assaï, Vivi Assaï,
qui a mis un doublé encore ce week-end.
Qui contrairement
France,
à Claire
Lavogé,
a
l'équipe de France.
De fortes chances de faire la Coupe du Monde.
Ah, Claire Lavogé,
c'est
la
compliqué.
Presque mon âge, elle a 30.
Non, elle a 24 ans, Claire Lavogé. Ah oui, elle a commencé jeune, mais non, Claire Lavogé, c'est plus compliqué, c'est plutôt, ça fait un moment qu'elle est pas appelée en équipe de France.
Ça se fait, ça d'ailleurs.
Bah, je sais pas, il y a eu un.
C'est comme avec les mecs.
Avec la Mouchi, je crois que c'est à partir de la Mouchi où elle était plus sélectionnée.
À partir du moment où tu quittes l'un des deux plus grands clubs français pourvoyeurs de joueuses, c'est-à-dire Lyon et Paris. C'est un peu le même exemple avec comment s'appelle cette joueuse qui était à Juvisy Gaëtan Tiné,
mais qui est retourné
voilà, mais c'est compliqué parce que forcément quand tu quittes Lyon ou Paris, t'arrives à Bordeaux, c'est le niveau en dessous, même si ça reste très bon, mais c'est quand même le niveau en dessous, et du coup t'es peut-être moins mise en valeur
après elle a quitté avant, elle était pas en... à Bordeaux elle fait une bonne saison, c'est le problème, c'est que ses niveaux sur
après, c'est possible,
précédente...
la petite Viviane Assaini, voilà,
c'est possible,
elle a fait son
mais la liste
elle, France, elle a marqué,
la liste elle est bientôt elle a pas fait de
et elle est jeune, elle a que 24 ans, donc elle peut encore
oui elle pourra y retourner
pour
la Coupe du Monde
en France.
Elle a fait des sorties en plus, hein, dans les interviews. Elle dit, elle, pour moi, j'ai le niveau et tout ça.
Mais... Pour terminer, les filles qui, pour la première fois, porteront le maillot sœur des Girondins, le rouge Bordeaux rayé bleu marine. Ça sera l'occasion du match face à Lyon, justement. C'est ce samedi à Saint-Germain au stade. Allez les voir, ça peut être un bon match. Je pense pas que ce sera elles ont jamais pris de grosses volées.
Je sais, je suis
autant
même
je
pas
me
sûr
souviens, elles ont jamais pris de... l'année dernière. Je crois qu'elles perdent que 2-0, je crois. Elles prennent pas de grosses tannées contre Lyon à chaque
3-0,
fois.
3-0, elles ont pris, je crois, sur le dernier match.
Ouais,
à Lyon,
c'est plutôt pas mal. Les autres en prennent 6, donc c'est toujours mieux.
Non,
que rien.
Mais elles font autre chose qu'une défaite, ça sera vraiment une très très grosse saison.
Et puis non, hein, franchement, c'est top. Faudra faire une petite émission.
Quand vous voyez des clubs comme Marseille qui vont être relégués,
mais
qui ont été relégués.
Mais non, franchement, c'est bien. Il y a du positif dans ce club.
J'allais faire une vidéo là-bas pour Bordeaux. Non, mais c'est vrai.
Tiens,
genre.
En parlant de vidéo, Snack Hill, Adrien.
Instant promotion.
puisque c'est l'heure de se quitter. On te retrouve donc toujours après chaque match. Sur ta chaîne.
Alors ça dépend parce qu'il y a des fois quand on me voit pas, c'est parce que je les mets sur ma page Facebook parce qu'il y a eu des matchs très compliqués comme contre Montpellier en semaine où là j'ai pas fait de débrief parce que ça sert à rien.
Attention.
Maintenant je vais vraiment faire des trucs qualitatifs.
Question. Ouais, j'allais te poser la question. Déjà nous sans faire comme toi tu fais, on dit des bêtises et puis on fait un peu les cons, mais je veux
nous
dire,
c'est direct, tu branches le micro,
on
tu dis n'importe quoi
spécifique, humour un peu déjanté, et déjà nous des fois franchement on galère à trouver des trucs à dire sur cette équipe, alors jusqu'à présent où il ne se passait rien, où tous les matchs étaient répétitifs, pareil, la même chose, je t'entendais des fois sur Gold et c'est vrai que tu t'amusais des fois à dire on prend le copier-coller de la dernière
c'est
fois
vrai,
puis on dit la même chose
donc...
et comment des fois tu moi de toi je lui dis ah c'est bon c'est bon il a marre
mais non mais j'essaye de me sauver par d'autres en pensant à d'autres formats, en essayant vraiment de partir de mais franchement en faisant n'importe quoi en fait, c'est-à-dire que le match en lui-même tout le monde s'en fout,
oui c'est
et
ça c'est
ce
ça
ce que
c'est
les gens me disent, mais on s'en fiche du match, à la limite fais n'importe quoi, défonce ton marche roulant parce que j'ai roulé avec une voiture sur mon sans-pluche tu sais, c'est complètement mais de toute façon c'est ça en fait, de toute façon qu'est-ce que tu veux faire,
qu'est-ce que tu veux dire,
voilà, donc essayer et puis essayer même comme je fais de faire un peu des reportages. Maintenant, je voudrais faire des vlogs. Je vais un peu aussi changer mon.
Pop, j'ai 35 ans. C'est quoi un vlog ?
Alors, un vlog, c'est en fait.
Qu'est-ce que c'est un blog ?
C'est la même chose en vidéo.
C'est-à-dire qu'en fait, je prends un sujet, par exemple, le match des féminines contre Lyon. Eh ben j'y vais, je vais filmer, je vais me donner mes réactions, je vais essayer de filmer les joueuses, machin, tout ça. Et à la fin, je fais un petit montage et je passe ma journée avec les féminines. Tu vois, c'est ça.
Ah, ça, c'est pas mal.
Ça, c'est des idées comme ça.
petit vlog, voilà.
Donc on te retrouve sur ta page, sur ton
YouTube Snakeel. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait un truc sur Paulo Sousa.
Oui,
voilà, j'ai acheté un drapeau portugais. Voilà, je suis un petit peu focus, mais hein.
Voilà, c'est ça. Facebook, les Portugais, on les déteste moins depuis.
Et sur du coup, pas genre, je les aide aussi, c'est vos confrères, mais sur Web Girondin, ils me
exact.
Voilà.
Exact.
Je les remercie.
Twitter, Facebook, Instagram, enfin tout ce qui.
Réseaux sociaux.
C'est surtout, ça, voilà. C'est ça, exactement.
T'es sur tous les réseaux. En tout cas, merci d'avoir passé cette émission avec nous. À chaque fois, c'est un plaisir. Tu reviens, cool. Tu reviens quand tu veux, c'est cool.
La porte est ouverte.
La porte est ouverte.
Bah, comme le couloir de Maxime Pouget.
Grand ouvert.
Oh
Adrien. On adore Maxime.
S'il veut venir dans l'émission,
il est déjà venu.
Moi, je vais faire un selfie. Et vous rappelez quand on avait eu Koundé, qui était tout jeune et qui était
ça,
pas.
Je me rappelle
pas. T'en rappelles pas, moi j'avais eu Koundé.
Peut-être pas là.
On a été les premiers à voir Koundé.
On l'embrasse à Jules. On a été les premiers à voir ça là aussi, on va pas lui souhaiter.
On l'embrasse.
Allez, les mots merci, de la fin. Merci Snakeel, merci Adrien, les phrases de fin.
Merci.
Alors, un salut à Eric qui voulait passer. Je sais pas où il va, il est. Il voyage, je crois qu'il
est au Pérou.
Il est au Pérou, voilà. Il voulait nous contacter. Mais il voulait nous contacter via WhatsApp, mais la technique fait que on ne sait pas comment faire.
Là, fait
WhatsApp,
que...
j'ai un cas,
Et on a les amitiés d'Arnaud de sa mère qui nous remercie de lui avoir souhaité un joyeux anniversaire.
Et jamais il appelle.
et écoute, il est en plein spectacle, il nous a répondu
à
22h. Non, on lui a envoyé un SMS.
Carrément, on envoie
des SMS.
Si vous me
donnez des conseils, Arnaud, pour les shows, le spectacle, je suis tout ouïe.
Eh ben écoute, on le remercie.
Et qui sait, un jour, une vidéo avec Arnaud de sa mère, il va dire ça casse plein.
Messieurs, merci, on se retrouve vendredi 20h30, 22h, je vais y arriver. Avant match de Bordeaux-Rennes, on reviendra aussi, évidemment. On va suivre quand même cette première semaine de Paulo Sousa et de son staff à la tête du FCGB. Et on reparlera de tout ça donc vendredi soir entre 20h30 et 22h dans Gironde Analyse sur RIG. Vivement que ça se termine.
90.7
FM, et c'est que lundi. T'imagines si on avait une émission tous les jours.
Oh là là.
Oh la vache.
Bah, on serait du niveau de Dugarit.
Non, je pense pas parce qu'au moins il parle de tout. Tu vois,
mais non, c'est
que
vrai.
De ça, mon pauvre, on deviendrait fou. Donc rendez-vous vendredi 20h30, 22h, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée. Demain, ça va être la folie. Demain, mercredi, il y a la Ligue des Champions.
Il y a
la Juve, il y a l'Atletico, il y a Lyon, il y a le Barça, il y a Rennes, notre futur adversaire jeudi soir, peut-être pour l'exploit.
Mais pour nous, il faut presque espérer qu'il se qualifie.
Je sais pas.
Ou qu'il y ait prolongation, tu vois, un petit
3 prolongation, il se qualifie à la fin.
Ils arrivent fatigués et Henri en fait la fête.
Tout le monde se blesse.
Dans l'euphorie, ils nous en mettent 4 à la maison. Tout va bien, quoi. On est bien. Allez, merci messieurs. Donc on se retrouve vendredi. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et allez, Bordeaux.
Salut.